cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Finalement, Marc Weber reste chez Red Bull.
La FIA et le SAV de la F1 réfléchissent aux pénalités.
Marussia exclut toute défaillance de sa voiture dans l'accident de Maria De Pilota.
Bernie Ecclestone est à 100% sérieux.
Dino au bout de Pastor Maldonado et Bruno Senna.
Spa et Singapour prolongent.
Et la moustache de Nigel Mansell fait encore parler d'elle.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, nous allons revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji. Mais nous ne sommes pas sales Shinji, dis donc.
Non,
dis donc,
nous ne sommes pas sales.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Bah j'ai vu de la lumière, je suis rentré quoi. Il y a du monde.
Steph Core, c'est toi dans le noir.
Donc vous aurez reconnu un Steph Core et Gus Gus. Alors bonsoir, messieurs. Shinji. Vous passez une bonne semaine, une bonne deux semaines pour certains même.
Ah oui, nickel. Hein.
Une bonne deux semaines, ça c'est très joli.
Oui, mais pour ceux qu'on n'a pas vu depuis deux semaines, voire un bon mois pour ceux qu'on n'a pas vu depuis un mois.
Voilà, mais non, mais c'est la notion de une bonne deux semaines.
Parce que je connais pas l'adjectif pour dire deux semaines. Enfin,
deux bonnes semaines, voilà.
Messieurs, ne tardons pas, commençons par le quiz dans ce cas-là.
Ouais.
Yes.
Youpi.
Non, ne dis pas yes.
Non, mais j'ai peur, moi.
Il faut rappeler le score. Si tu de combien le score, Dino?
17 à 11, non?
Exactement, il est de 17 à 11.
J'ai une mémoire de lynx.
Oui.
Non, une mémoire d'éléphant.
Si tu veux.
Qu'est-ce qu'il fait, le lynx? Je sais plus ce qu'il fait, le lynx.
Il voit le lynx.
Non,
Ah, voilà, j'ai une vision de lynx et une mémoire d'éléphant.
Non, mais je crois qu'on est arrivé au niveau où on va citer la phrase de Coubertin. L'important, c'est de participer, hein.
Mais non. Oui. En plus, j'ai pris.
Si tu commences dans cet état d'esprit-là, tu vas pas faire long feu, mon petit chef.
Non, mais c'est de la stratégie, Gus Gus. C'est pour vraiment les reprendre par derrière, t'inquiète.
Ouais, bien sûr. C'est notre genre.
Bien sûr. Et donc, c'est moi qui vais vous poser la question cette semaine. Une question qui sera peut-être rapide, si vous êtes bon.
Hein. Oh non, mais tu dis.
Mais je vous mets tout le temps la pression là-dessus. Non, mais même si c'est rapide, c'est pas inintéressant. C'est pas le Québec et l'Ontario, non. C'est... Voilà.
Il cherche à m'énerver là, mais il m'aura pas. Je suis concentré, je veux gagner celui-là.
Vous êtes concentré? Eh bien, mais...
Concentré, oui, après pour les autres, je sais pas.
Mais si tu écoutais bien, la question est toute simple. Où est la moustache de Nigel Mansell?
Dans ton cul!
Dans ton cul!
Non!
Elle a disparu.
Est-ce qu'elle a pas été mise aux enchères?
Non.
Ok, sorry.
On parle de la vraie moustache.
C'est censé être la vraie moustache.
Mais non, mais on parle vraiment de la moustache au sens pileux du terme.
Non.
Ah, on parle de l'aileron avant alors.
Non plus.
On parle pas de la moustache au sens pileux du terme.
Si, mais c'est censé être la vraie moustache.
Elle est au fond de son lavabo, il a bouché son évier.
Non.
Elle est dans un musée automobile célèbre.
Non, c'est pas un musée automobile.
C'est une œuvre d'art qui s'appellerait la moustache.
Non, non, c'est pas vraiment des poils.
Ah, est-ce pas que... quelqu'un qui est inscrit sur Internet avec ce... Sur Twitter avec quelqu'un?
Non.
Est-ce que c'est pas un ustensile qui a été créé comme, je sais pas, une brosse à moustache et qui porte le nom de...
Non. C'est censé être la vraie.
Donc c'est... qui porte la moustache de Nigel Mansell? Nigel Mansell.
Non, c'est censé être la vraie. Ouais, elle est sur Nigel Mansell.
Non, vous savez, ça fait longtemps qu'il ne la, enfin, ça fait quelques temps qu'il ne la porte plus.
Je sais pas, ce matin au réveil, tu l'as vu, il est reparti comment? Il est sorti du lit, il l'avait ou c'était? Je sais pas,
Allez, j'admire le bide. Allez. Il est magnifique.
C'est le ouin 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 qui était superbement réalisé qui m'a.
Donc.
Attends, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est une vraie moustache.
Non, c'est pas une vraie moustache.
Est-ce qu'elle est... C'est pas une vraie moustache, c'est fait à partir de poils humains ou...
Ah non, c'est pas en poils humains.
Elle est collée sur un casque?
Non.
Il avait besoin d'argent, il les a vendus en Inde?
Non.
Est-ce qu'elle est collée quelque part?
Non.
Pas collée, ouais, j'ai...
Dessinée quelque part?
Oui, plutôt.
Mais dessinée, c'est un collage? Ouais, non.
Sur sa voiture, au Mans?
Non.
Sur une ancienne de CF1, elle a été apposée ou peinte sur son casque? Sur son casque?
Non.
Ah. Sur le casque de Lewis Hamilton?
Non.
Sur le casque d'un autre pilote?
Non, pas sur un casque.
Sur une combinaison.
Ah, est-ce qu'ils ont remplacé le S de Senna par la moustache? Temporairement, parce que le S...
Non.
Ah ouais, est-ce que ce serait pas une portion d'un circuit qu'on aurait renommé?
Non.
Ah non, mais je parlais sur la Williams. Le logo.
Non.
C'est un tatouage?
Non.
Ouais, c'est une peinture, c'est une... Non?
Non, pas une peinture.
C'est pas une peinture, c'est sur une sculpture. On a fait une statue en honneur de Mansell dans sa ville natale.
Alors, la moustache est mise en trophée, en effet. Je veux dire, c'est pas une sculpture, c'est mise en trophée, mais où?
Chez Williams?
Chez Santander?
Pas chez... Non.
Chez McLaren?
Chez Williams? Non.
Chez McLaren?
Ferrari? Chez McLaren?
Oui.
Dans la vitrine, la vitrine de trophée de Ron Dennis?
Oui, mais pour où? Dans quoi?
Sa coupe de champion du monde ou elle est apposée sur sa coupe de champion du monde dans la bouteille de champagne que je sais pas.
Non, c'est un...
sur la voiture dans laquelle il est pas rentré.
C'est un trophée en effet où il y a la moustache de Nigel Mansell,
champion du monde des constructeurs de McLaren.
Il y a un petit détail.
C'est le trophée Nigel Mansell.
Oui voilà, c'est même pas, c'est la moustache de Nigel Mansell.
Qui est un trophée chez McLaren pour récompenser je sais pas le meilleur ouvrier du mois ou
le meilleur changement de roue arrière. Ouais, ouais. Le meilleur trophée qui... En ce moment, il n'est pas attribué.
Disons que ce trophée existe, mais il n'existe pas. Pourquoi?
Bon, là, attends, il rajoute des questions.
Il y a un côté pervers chez...
Est-ce que c'est un prix qui est décerné à quelqu'un chez McLaren en interne?
Non.
C'est un vrai trophée?
Non.
C'est pour une œuvre caritative, je sais pas, ou...
Non.
Non.
C'est un truc qu'ils font, une sorte de vote sur Internet?
Non.
Les questions de Shinji devraient être interdites par la Convention de Genève.
Attends, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans la main?
Non.
Attends, on peut pas le tenir dans la main?
Non.
Est-ce que c'est sur le règlement intérieur de chez McLaren? Ça concerne l'entreprise McLaren en elle-même ou pas?
Ça concerne McLaren.
C'est le fond d'écran de chez McLaren.
C'est pas un fond d'écran, mais on peut être dans ce genre de domaine-là.
C'est sur les murs de Walking
Clay USB? Non. Les tapisseries? Moquettes?
Non. C'est quelque chose qui...
T'imagines la moquette en poil de Nigel Mansell.
C'est quelque chose qui a sorti McLaren et dans lequel il y a ce trophée avec la moustache de Nigel Mansell.
La première McLaren qui s'est produite?
Non.
Ah, c'est pas dans la petite vidéo là qu'ils ont fait avec... Ah oui, dans la vidéo où il y a Button et Hamilton en dessin animé. Là.
Exactement.
Un point de plus, 18 à 11, les Dulos.
J'ai regardé la vidéo, j'ai pas vu.
Oui, j'ai vu aussi,
c'est
mais
très très rapide, hein. C'est très très rapide. Donc en effet, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, McLaren a présenté donc McLaren Animation. En fait, c'est une association avec une société qui s'appelle Framestore, qui est une société anglaise qui fait de la 3D, des effets spéciaux et tout ça. Et donc ils ont présenté Tund, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, qui devrait donc être une série en 12 épisodes de 3 minutes 30. Qui est donc un dessin animé sur McLaren, avec pour héros, donc, Jenson Button et Lewis Hamilton.
C'est à peine pompé sur l'eau Speedy Driver, sans plus.
Oui. Puis, franchement, c'est le genre de truc, en ce moment, ils en ont besoin. Je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient d'autres priorités.
Non, mais tu vois, c'est le genre de truc qui a été lancé quand ils avaient rien d'autre à voilà. faire.
Donc,
et là, ils se disent, en fait, on aurait peut-être dû travailler sur la voiture au lieu de faire ce truc à la con.
Voilà, donc c'est dans un style 3D, très Pixar, un peu, d'animation. Et donc, en effet, dans le début de la vidéo, donc, on les voit arriver au McLaren Technology Center, en MP412C, bien évidemment. Et dans le hall, quand ils passent dans le hall, il y a bien évidemment, comme toute bonne équipe, une galerie des trophées. Et dans la galerie des trophées, alors c'est très court et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sous-titrage, donc c'est pour ça, faut comprendre l'anglais. Il y a des visiteurs et il y a la personne qui fait la visite qui dit « Voilà la moustache de Nigel Mansell datée de 1995. »
Et en passant, Lewis Hamilton, il n'a pas chouré un de ses propres trophées.
Étonnant.
Ok, mais la vidéo était vraiment amusante, hein, perso, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est vrai que pour redonner l'image, mais c'est vrai que...
Elle est que en anglais, mais bon, après, c'est très visuel, hein, donc même si vous connaissez pas trop l'anglais...
Oui, et puis,
voilà.
Là, j'ai la vidéo sous les yeux, et elle est quand même, la moustache elle est quand même au centre de la vitrine, et c'est un gros trophée quand même, donc on peut pas le rater.
C'est une belle moustache.
Voilà.
Mais c'est l'humour très anglais, quoi, de foot, voilà, au milieu de la vidéo, la moustache de Nigel Mansell. Non, puis c'est quand même rare de... Bon, déjà, ça doit bien être la première fois qu'on voit une écurie de F1 faire comme ça des dessins animés. Hein. C'est pas eux directement qui le font, mais qui font de la promotion par le dessin animé. Et même quand on y pense par rapport à la promotion, parce que c'est destiné... Nous, ça nous fait rire, mais c'est aussi destiné à un public peut-être plus jeune. Et c'est rare aussi de voir les équipes investir justement une forme de promotion pour les fans les plus jeunes de la F1. Parce qu'en règle générale, ça passe surtout plutôt par le merchandising, genre les associations Ferrari Lego, les peluches, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est pas la première fois chez McLaren qu'ils font des choses un peu à destination des jeunes, parce que dans les années 90, c'était Laura Dennis qui avait fait des bandes dessinées. Alors là, c'était, là encore, ils s'étaient pas foulés au niveau du nom, c'était les aventures de Mac et Lorraine, hein. Et là encore, c'était des histoires de Formule 1. Et dans un autre genre aussi, même si là c'était pas pour une écurie, faut pas oublier aussi le personnage de Senna, qui est un personnage de BD, hein, mmh, inspiré d'Ayrton Senna, même si là c'est aussi pour la fondation Ayrton Senna.
Mmh. Et t'as marqué le titre du premier épisode de la
oui,
série?
Oui, alors c'est Will Nuts, alors qui traduit littéralement ne veut rien dire, hein, mais en fait ça veut dire fou du volant, parce que Nuts c'est être un peu timbré quoi.
Non, oui, mais Will Nuts, c'est pas les non boulons. Plus les... Oui, c'est pas les coups de roue aussi.
Oui, bah oui, il y a le jeu de mots, bah oui.
Oui, non, mais c'est rigolo pour McLaren qu'ils aient fait un truc il y a sans doute plusieurs mois qui s'appelait les coups de roue. Ah, dis donc, franchement, fallait la faire.
Les coups de roue se sont vengés depuis.
Voilà. Donc, apparemment, il y en aura 12, alors on verra est-ce qu'il y aura une deuxième qui sortira pour l'Allemagne ou pas, mais il y en aura d'autres, voilà. Donc, c'est à voir, ça dure 3 minutes 30, c'est rigolo à regarder, quoi.
Bah c'est plus drôle qu'à regarder que les courses de McLaren en ce moment.
Non mais c'est des marrants chez McLaren, on dirait pas comme ça. Souvenez-vous la fameuse vidéo de Whis March lorsqu'il y avait eu le Grand Prix de Singapour. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était non, la vidéo où ils disent, alors c'était, il y avait Whis March devant la McLaren, et donc le truc style très sérieux sur difficulté de rouler la nuit et tout ça, et juste derrière ouais, on les voyait poser une rangée de phares style rallye sur la McLaren.
Ouais.
Et dommage, ça aurait été sympa à voir. Mais c'est drôle de voir finalement une équipe qui a une image très sérieuse, et c'est peut-être justement parce qu'elle a cette image très sérieuse qu'elle fait aussi des choses comme ça à l'humour plus british. Voilà, pour sa promotion.
Bah, quel meilleur humour du monde, l'humour britannique.
Oui, ça fait.
Ah, bah là, mettre la moustache de Nigel en trophée, quand même, faut le faire.
Par contre, s'ils pouvaient mettre un peu d'humour dans leur communiqué, McLaren, ça serait.
Tu penses à quelqu'un en particulier?
Oh. Oh, ils en mettent déjà. Ils en mettent déjà plein d'humour dans leurs arrêts au stand et tout, donc ils animent déjà.
Ben voilà, ils sont déjà suffisamment drôles en piste.
Ouais, voilà, faut pas rajouter trop non plus.
Ah, je vais me faire pourrir par les fans de McLaren.
Donc Dino, nous menons 18 à 11.
Plus que 3 points, je dis, on a le double.
Plus que 3 points et vous avez le double. Ouais, ben oui, vaut mieux que ce soit des questions que du calcul mental. Mais bon.
Non, 4 points. Plutôt, ouais. Non, je pensais à 3 Grand Prix en fait. Enfin, 3 mags.
Oui.
Vas-y, essaie de te rattraper.
Ouais.
Ah ouais, parce que dans le prochain mag, on gagne 2 points, Shinji. Après, ah non, ça fait. Ah non, merde, ça ferait 5. Ah, t'as mon argument, tiens pas.
Que de conjectures alors qu'on est vraiment pas à fond depuis le début de l'année, franchement.
Oui, nous. Vous vous réservez pour la fin de saison.
Bah oui, on verra en novembre.
C'est
tout.
Pas intéressant sinon.
Nous,
oui, c'est vrai.
On applique la technique Mercedes, on cache notre jeu.
Ah, allez, voilà.
Voilà. Au plus tard. Bon, on va éviter que ce soit avant la dernière épreuve, mais on y arrivera.
Attends, il faut pas qu'on se dévoile avant les vacances, tu vois. Sinon, ah bah ils vont cogiter pendant 3 semaines, ils vont monter un plan et tout. Non, tranquillement, en septembre, on va arriver et blah.
Les 5 lames gilettes, les unes après les autres. Non, non, non.
C'est le Quinty Pio, 15 lames.
Alors, Shinji, nous passons aux actus.
Tout à fait, Dino.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Rappelez-vous, il y a 2 semaines, on vous avait demandé quelle était l'actu principale du mag, du 4 juillet. Vous avez des 59 à voter, encore merci, hein, comme d'habitude. Et il faut dire qu'il n'y a pas eu de vote. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de compétition.
Combien de voix a eu Neran Kartikeyan, tu dis?
Alors, Neran Kartikeyan... Mais il n'y a pas Neran Kartikeyan.
Ah, c'est dommage. Moi qui pensais qu'il allait gagner.
Hein. Vettel a eu 1 vote. Ecclestone a eu 2 votes. Le Grand Prix de Londres a eu 4 votes. Red Bull a eu 5 votes. Mais, j'ai envie de... L'actu, la grosse actu, le crash de Maria de Villota a eu 47 votes, 79,66%. Et ça tombe bien, parce que parmi les 5 actus qu'on va traiter aujourd'hui, eh ben, on va continuer de parler, hein, de l'accident, de ses conséquences et de l'enquête, puisqu'on a eu quelques nouvelles aujourd'hui ou hier, si je me souviens bien.
C'était hier.
C'était hier. Donc, Dino, tu peux nous rappeler donc ce qui a été dit justement hier par rapport à l'enquête?
Donc en fait, il y a une enquête qui a été ouverte par Marussia en interne pour savoir essentiellement si le problème la cause de l'accident de Maria De Villota était lié à un dysfonctionnement de la voiture pouvant se reproduire potentiellement au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais il faut savoir aussi qu'en Grande-Bretagne, comme chez nous en France, quand il y a un accident lié au travail, il y a une enquête des services concernés, et donc il y a une deuxième enquête qui est en cours, à laquelle collabore Marussia, mais qui n'a toujours pas donné ses résultats, pour savoir, effectivement, pour juger la responsabilité. Alors, dans l'enquête interne de Marussia, l'écurie britannique assure qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement, donc ce qui tendrait à privilégier l'hypothèse, pas nécessairement d'une faute de Maria De Villota, mais en tout cas d'un problème dans l'interaction entre la pilote et la voiture, donc problème d'incompréhension, fait que Maria soit surprise par quelque chose, par un comportement. On a parlé qu'elle pouvait être surprise, notamment par le système anti-calage et compagnie. La seule certitude du point de vue de Marussia, c'est que tout a fonctionné comme ça devait fonctionner sur la voiture.
Au final, j'ai mis assez haut dans les actus, mais c'est vrai que tant que la deuxième enquête a pas rendu son verdict, c'est difficile à commenter, parce qu'on peut pas vraiment dire que comme l'enquête de Marussia dit que c'est pas la voiture, que c'est directement de sa faute. Ça peut être juste la malchance.
Il faudra aussi avoir le témoignage de Maria De Villota, en espérant qu'on en ait un. C'est même pas sûr, mais aussi savoir ce que elle en a pensé, qu'est-ce qu'elle a vécu.
Bah, il faudra savoir si dans le traumatisme crânien, vu qu'on a souvent des pertes de mémoire liées à la zone de l'accident, est-ce pas qu'elle puisse s'en rappeler, mais c'est vrai que c'était le communiqué de presse, j'ai eu la possibilité de tomber dessus, j'ai trouvé après les termes étaient qui se satisfaisaient, comment dire, du fait que ce soit pas la voiture, que ça pouvait valider leur essai. Après c'est du niveau de langage, mais j'avais trouvé ça un petit peu dur, mais après c'est une écurie, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment dommage pour elle. Et l'éclaircissement, j'espère que la société extérieure indépendante pourra vraiment apporter. Parce que tant que ça reste que les estimations ou la vérification faite par l'écurie Marussia, j'ai toujours une préférence quand même à ce qu'une enquête externe puisse venir approuver le fait que c'est malheureusement une manœuvre malencontreuse qu'elle aurait faite, quoi. Mais
c'est ça qui est important de préciser, hein, c'est que Marussia explique bien que c'est une enquête interne qu'ils ont fait pour s'assurer que l'incident ne se reproduise pas au Grand Prix de Grande-Bretagne, et donc ils précisent bien dans le communiqué qu'ils travaillent, ils collaborent pleinement avec la direction de la santé et de la sécurité en Grande-Bretagne pour effectivement définir les causes et compagnie. Bon, après ils vont fournir les résultats de leur enquête interne sur les pièces de la voiture et compagnie, donc il n'y a pas de... Après ça sera peut-être une lecture différente, mais...
D'ailleurs, est-ce qu'on a eu des nouvelles par rapport à sa santé?
Tout ce qui est sorti, c'est du côté de Marussia. Ils ont publié un communiqué vendredi dernier, je crois, pour nous dire qu'elle avait subi deux opérations chirurgicales qui s'étaient bien passées. Donc, effectivement, elle a perdu l'usage d'un œil. Dire qu'ensuite, elle avait été sortie du service de soins intensifs, du service de neurologie lundi dernier, donc lundi en 8. Qu'elle a parlé à sa famille, etc. Donc apparemment elle est consciente, elle parle et tout. Donc les nouvelles sont relativement positives.
Et on va être prudent maintenant.
Maintenant sur l'évolution, sur l'évolution, il faut attendre de voir comment ça va se passer. Apparemment, elle a une convalescence qui se déroule très très bien. Maintenant, faut voir. C'est comme toujours. Hein, c'est ce qu'on a dit aussi sur Robert Kubica. On n'a plus de nouvelles actuellement. Donc c'est toujours le problème. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'enquête officielle de la FIA. On sait que Charlie Whiting a demandé à Silverstone à pouvoir inspecter le casque, mais je vois pas concrètement en quoi inspecter le casque va leur permettre d'avoir des idées sur les causes de l'accident. Ça va peut-être être plutôt pour essayer de trouver
pour voir par rapport à l'impact,
à l'impact, la sécurité et compagnie, pour renforcer peut-être les casques et vraiment dans les mesures de sécurité. Maintenant, je pense quand même que la priorité quand même, c'est de savoir comment est-ce que ces essais qui sont quand même régis par les qui suivent des recommandations officielles de la FIA, comment on peut avoir un accident sur ce type d'essai et qu'est-ce que peut faire la FIA. Donc moi, je suis quand même assez étonné que la FIA ne fasse pas une enquête officielle sur les circonstances de l'accident, ce qui serait une troisième enquête, mais ce qui serait encore un troisième regard et surtout avec les précédents qu'il y a eu. Alors, est-ce qu'ils ont pas envie de se mêler de potentielles affaires de justice, parce que pour le moment la famille et l'équipe s'entend bien, mais on sait jamais, peut-être qu'à un moment donné la famille pourra se retourner pour demander des comptes. Voilà, c'est je trouve ça étonnant.
Je pense qu'il se dégage un petit peu aussi pour pas relancer la polémique sur les essais privés, sur le fait de dire voilà, tu sais, t'aurais des gens qui auraient sauté sur le dos de la FIA en disant ouais, mais si vous auriez autorisé à être sur un circuit, ils auraient pas pris ces dispositions à faire à être sur un aérodrome, alors que tout le monde sait que toutes les écuries le font.
Oui.
Il y a des tests.
C'est réglementé par la FIA, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journées qui est défini, etc. Oui. Donc
ils avaient peut-être pas envie de relancer ça, qu'on revienne sur leur dos. À charge, donc. Mais en même temps, moi, je trouve pas ça plus mal de laisser l'enquête se faire un premier niveau. Si jamais vraiment les conclusions leur paraissent douteuses, je pense qu'ils replongeront le nez dans l'affaire. Mais
le problème, c'est que tu peux pas lancer une enquête plusieurs semaines après l'accident.
Mmh. Oh, la FIA a déjà fait mieux.
Très bien. Allez, on va passer à une autre actu. On va changer de sujet. Et on a appris que la FIA allait réfléchir. Attention, ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Attention.
Continue ta phrase, parce que sinon c'est une grosse news. La FIA allait réfléchir.
Ils vont peut-être réviser le système de pénalité.
Ah purée, enfin.
Je dis bien, hein, ils vont y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ça ne veut pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de tout ça, hein. Mais
ouais, parce que quand on voit les déclarations de Derek Warwick, déjà, ouais, effectivement, ils vont y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va être fait derrière.
Oui.
Et en plus, ce dont parle Derek Warwick, c'est plus d'équilibrer selon les circuits les pénalités. Le fait que, par exemple, au Canada, un drive-thru, c'est 15 secondes, et sur un autre circuit où la ligne des stands est plus longue, c'est un peu plus. C'est plus ça que revenir sur les pénalités après les grands prix, les places sur la grille, etc., qui sont un peu décriées par les fans, à tort ou à raison, je sais pas, mais c'est plus dans cette optique-là qu'ils abordent.
Essayer de mettre de la cohérence, ou par exemple, comme ils ont dit à Silverstone, c'est-à-dire qu'à Silverstone, mettre un drive-through, ça ne sert à rien, faut mettre un stop and go.
Ça a d'ailleurs bien piégé Malbranque et compagnie, tout ça. Ah, Weber, Alonso, il va peut-être ressortir derrière, alors que non, il coupe trois virages.
C'est vrai que même au niveau de l'informatique, c'est une horreur.
Il suffirait juste de faire l'entrée des stands, enfin la ligne où t'es obligé de mettre le limiteur, tu la mets 20 mètres avant le virage, ça a le même impact, quoi.
Oui.
Exactement, ouais. Non, mais en l'occurrence, non, je trouvais que ça serait une bonne chose, quoi. Mais c'est même l'ensemble des pénalités, il y a des choses que je trouve vraiment ridicules, quoi. Quand c'est pas de la faute du pilote, là, je vois Grosjean, la boîte de vitesse qui casse après l'arrivée du Grand Prix, on prend 5 places de retrait. C'est la faute du pilote? Non, c'est la faute de l'écurie.
Et alors, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux les pénaliser?
Non, mais avoue que ça manque de cohérence, dans le sens.
Mais non, ça manque pas de cohérence, c'est parfaitement cohérent. Tu dois avoir utiliser une boîte de vitesse pour 5 grands prix. Tu casses ta boîte de vitesse avant le grand prix, bah, automatiquement, t'es pénalisé derrière. C'est
naturel. Mais ça manque d'incohérence dans le sens où, par exemple, pour les moteurs, on a décidé de passer de ce système-là, de dire un moteur pour temps, quota. Ça serait peut-être plus intelligent, bien sûr, de limiter le nombre de boîtes de vitesse, pourquoi pas, mais de mettre, comme pour le moteur, un quota de boîtes. On dit 4, bah on met 5 boîtes dans l'année, et après ils se démerdent.
C'est vrai. Exactement. Que dans ce cas-là, c'est toujours la même inertie de la FIA qui manque de réaction, de jugeote.
Voilà un exemple parfait de manque de cohérence. Voilà, on a un élément, c'est un type de règle, et un élément, c'est une autre.
Je dirais aussi parfois de la part de la FIA un manque de pédagogie, parce que je prends par exemple le cas là, cette réflexion elle a été ouverte suite à l'histoire de Valence, le DRS ou drapeau jaune, où il y avait un recours contre Schumacher à la demande de Red Bull, puis qu'en fait Red Bull s'est senti lésé parce qu'on n'a pas pénalisé Schumacher là où on avait pénalisé Vettel en Espagne. Et le vrai problème, c'est qu'il y a véritablement un manque de cohérence sur certains points. Mais là, vraiment, ce qui a déclenché le problème, c'est que là, encore une fois, je trouve qu'ils se trompent. C'est qu'ils sont en train de remettre en cause le système de pénalité. Sauf que là, c'est pas le système de pénalité qui est à remettre en cause. C'est juste la manière dont la FIA explique les pénalités. C'était tout simple d'expliquer que, effectivement, la priorité, c'est d'être plus de ralentir sous drapeau jaune, peu importe l'usage du DRS ou pas. Il suffisait juste de l'expliquer, de prendre 5 minutes à la fin du Grand Prix, de l'expliquer sans forcément attendre 2 heures pour prendre une décision et compagnie. C'était plus simple. Ou alors, faire ce qu'ils ont fait derrière, ce qu'ils se sont enfin décidés à faire à l'allemande de Red Bull, interdire le DRS sous drapeau jaune. Mais voilà, c'est un manque à la fois de réflexion, mais aussi un manque de pédagogie où parfois ils ont du mal à expliquer et à justifier des pénalités qui sont justifiées.
Ah mais le problème c'est que le règlement marche comment dire, il rajoute des règles.
En rose. Oui, c'est dans le règlement, tu regardes les règlements, les nouvelles règles sont en rose. Donc il rajoute des trucs roses mais sans retirer forcément.
Voilà, sans retirer, sans modifier forcément. Donc t'as des trucs qui finalement entre les choses qui ont été écrites il y a très longtemps et les nouvelles qui sont plutôt cohérentes entre elles.
Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont tout le temps, on a toujours l'impression qu'ils sont dans la réaction et pas dans la prévention, quoi. C'est que, c'est en fonction du circuit, en fonction de l'épreuve, où, comme tu disais, il n'y a pas de démonstration de cohérence. On a toujours l'impression que, voilà, c'est fait à la va-vite. Comme tu disais, on nous explique pas, donc tu peux pas avoir une compréhension sur le règlement et sur les sanctions qui sont mises plus tard. À chaque fois, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est parfois que simplement des choses qui se répètent. Il y a une certaine
et entre guillemets, la ligne rouge, elle est pas claire.
Ah oui,
on
oui.
On sait jamais vraiment quand est-ce que tu dépasses la ligne rouge et que tu mérites une pénalité.
C'est pour ça qu'il faut
regarder. C'est extrêmement variable.
Mais là, on en a un exemple, c'est-à-dire que là, ils ont précisé. 5 ou 6 grands prix après que ce soit passé, les différentes règles sur le dépassement. Donc, bon, ils ont rappelé le fait que tu peux faire un mouvement en disant faut laisser la place pour passer. Donc, aujourd'hui, un pilote, il peut se décaler sur toute la largeur de la piste, comme il veut.
Oui.
Il y a une seule condition, c'est que quand une voiture essaie de le passer, il faut qu'il y ait une partie significative de la voiture qui ne soit pas à côté.
Non, mais ça devient du délire.
Et donc, non, mais, donc là, ils précisent bien dans le règlement, ils disent, voilà, on entend par significatif, dans une note, ils précisent, on entend par significatif quand l'aileron arrière est au niveau, quand l'aileron avant est au niveau de la roue arrière. Si un pilote a l'aileron avant au niveau de la roue arrière, le pilote qui est en train de se faire dépasser, ne peut pas se rabattre jusqu'à l'extrémité de la piste. Bon, ça, c'est clair. Il y a aussi un autre point, c'est sur le fait de sortir hors de la piste ou pas. Le précédent de Bahreïn avec Rosberg et compagnie, où là, ils disent clairement, voilà, aujourd'hui, un pilote ne pourra pas tirer avantage d'être sorti de la piste, donc dépasser ou gagner du temps, s'il y est contraint par un autre pilote. Le cas de Lewis Hamilton qui avait dépassé Rosberg en passant sur le sable. Voilà. Le problème, c'est que juste derrière, ils disent « Maintenant, nous encourageons les commissaires à faire cela à discrétion. »
Voilà.
C'est-à-dire que c'est les commissaires qui vont devoir juger ils ont éclairci un truc qui est toujours aussi peu clair, à savoir que même quand la voiture sera totalement à l'extérieur, il faudra que les commissaires jugent à discrétion, donc ça ne regardera qu'eux, hein, sans avoir le moindre argument ou quoi que ce soit derrière à avancer dans le règlement, de juger si, ah oui, un tel a tiré avantage ou pas. C'est
trop compliqué.
Rien derrière.
C'est trop compliqué, voilà. Par exemple, de foutre une simple règle en disant, il est interdit de couper une chicane en mettant plus de 2 roues en dehors de la piste. Non, il pourrait le faire. Mais non.
Non, mais c'est ça, c'est le pire, c'est qu'il part sur quelque chose de clair en disant, voilà, il est interdit de dépasser une voiture, en ayant toute la voiture en dehors de la piste, ce qui est arrivé à Bahreïn. Tu vois, tu t'arrêtes là. Derrière, il s'embringue dans des trucs. Voilà. C'est ça le truc, c'est que des fois, ils anticipent sur des trucs qu'ils devraient pas anticiper, et des fois, ils anticipent pas sur des trucs qu'ils devraient anticiper.
Non, comme tu disais, ouais, le vrai manque de cohérence, quoi. Simplement avoir une ligne claire et même de laisser à discrétion du commissaire responsable. C'est même cela, au final, non, c'est tu t'as un règlement, il l'applique, point barre.
Oui.
Tu t'amuses pas à laisser à discrétion, parce qu'après, ce qui va rentrer en ligne de compte, ça va être même le jour où il y a une grosse affaire. Si vraiment il y a quelque chose de vraiment litigieux, On dira bah le commissaire c'était tel pilote, donc il y avait une affiliation, il y avait quelque chose. C'est ça ouvre comment dire la porte à tous les malentendus. Le simple fait de tracer une ligne rouge claire et nette, voilà, c'est la seule chose à faire. Mais la FIA est toujours sur à danser sur un pied sur l'autre, à pas vouloir contrarier les uns, donner de l'importance aux autres. Voilà, comme la règle du commissaire. Tant mieux que ce soit un ancien pilote de F1, mais tu lui donnes des décisions fermes dès le départ, quoi. Tu t'amuses pas à le laisser main libre. Tu sais, t'en as qui vont suivre. Qu'on dit régulièrement. Je suis sûr qu'il y a des commissaires qui doivent suivre régulièrement toutes les courses, qui doivent toutes les regarder, donc voir les décisions qui ont été prises avant. Mais je suis sûr qu'il y en a certains qui sont, qui ont été installés, à ce rôle-là, et pour autant ils suivaient pas à fond toutes les courses et ils n'ont pas eu, en mémoire les actions précédentes et les sanctions précédentes.
En laissant quand même assez de souplesse aux pilotes, parce que faut pas aussi non plus que ça bientôt le moindre bout de carbone qui sortira de la piste, ils seront sanctionnés. Ça devient hallucinant.
Comme tu parlais de cohérence, quand tu vois les sanctions de Maldonado, il se prend 3 places. Il se prend 20 secondes à Valence. Derrière, pour sensiblement la même chose. Derrière, je sais plus ce qu'il se prend. Il se prend une réprimande et une amende. Mais comment est-ce que tu peux expliquer? Comment est-ce que nous, qui nous occupons d'un site de Formule 1, qui faisons une émission, comment est-ce qu'on, derrière, on peut réussir à faire comprendre aux gens que pour une faute à peu près similaire, il est comme de pénalité totalement différente?
Voilà.
Autant, tu peux expliquer les 20 secondes en disant, voilà, il a pris 20 secondes parce qu'il a fini la course. Sinon, il aurait pris une place sur la grille pour le Grand Prix d'après. Ça reste, entre guillemets, c'est un concept une fois quand tu l'as compris, d'accord, ok. Mais là, va-t'en expliquer pourquoi, comme par magie, il prend une réprimande et une amende. Mais c'est de n'importe quoi, quoi. Puis la réprimande, elle va servir à quoi? Une réprimande, ça vaut si derrière il y a l'idée de dire voilà t'es sous réprimande, derrière à ta gueule quoi.
Tu sais bien qu'en F1 suffit de se baisser pour avoir des milliers de cas comme ça, comme le cas des 20 et des 5 secondes. Hein il est impossible dans le règlement de mettre d'autres pénalités que 20 secondes. Deux grands prix plus tard, on met 5 secondes à la moitié du peloton.
Voilà. Mais c'est là où c'est ridicule ce que déclare Warwick, c'est qu'il dit il y a pas de pénalité intermédiaire, il y a des fautes pour lesquelles un drive-thru c'est pas assez et il y a des fautes pour lesquelles un drive-thru c'est beaucoup trop. Il cite notamment la manœuvre de Schumacher sur Barrichello en Hongrie il y a 2 ans où il dit la Schumacher aurait dû être bannie. Oui, le problème c'est que du coup dans ce cas-là tu peux pas demander une grille spécifique. Enfin t'es obligé de faire au cas par cas. Et le problème, c'est qu'il y a déjà eu des exemples où on a eu des pénalités qui ont été adaptées en fonction au cas par cas. L'exemple, effectivement, de la pénalité de 5 secondes, quoi. Donc, si tu dis, c'est juste pas possible, quoi. Tu nous dis qu'il faut plus de flexibilité. Il y en a déjà de la flexibilité. Le problème, c'est que cette flexibilité, personne ne la comprend. Donc, ce qu'il faudrait, c'est élire un jury de commissaires. Qui ferait un rapport, ils le font déjà, mais c'est juste qu'on les publie pas, parce que c'est pas passionnant. Mais voilà, un jury de commissaires qui pourrait, avec un pilote, qui serait un porte-parole, qui serait sur une année complète,
plus,
sur un Grand Prix.
Parce qu'en plus, quand ils pensent les fautes, il y en a pas 40 000. Je veux dire, on est en F1, donc tu peux créer des familles entre guillemets de délits et dire, voilà, pour plus ou moins ce genre de délit, voilà la règle de base, au moins. Voilà ce que de base un pilote aura. Après, à la limite, on aggravera ou on réduira. Déjà, ça serait déjà beaucoup plus clair.
Et même à la limite simplifier. Enfin, voilà, on va exclure les fautes, les pénalités pour la technique, qui sont des pénalités un peu à part. Mais tout ce qui est pénalité pour faute du pilote ou faute de l'équipe, tu fais une sorte de licence à points. Et voilà, quand le mec il a grillé ses points, tu définis que tel ou tel truc ça vaut tant de points. Quand le mec il a grillé ses 12 points, eh ben il est sanctionné d'un certain nombre de grands prix. Il passe devant une commission avec d'autres pilotes du plateau, avec des anciens pilotes, avec des commissaires expérimentés et compagnie. Il défend son cas, il plaide sa cause, et s'il faut, on lui retire sa commission. Comme on fait dans une école ou dans un collège, quoi. À un moment donné, il y a un conseil de discipline. Il y a des mecs comme Lewis Hamilton l'an dernier, comme Pastor Maldonado cette année. À un moment donné, trouver devant une sorte d'instance officielle, ou un mini procès entre guillemets, ça leur met peut-être les idées au clair. Là où finalement, on préfère leur donner des pénalités et le procès il a quand même lieu, mais il a lieu dans les médias, il a lieu sur les forums, il a lieu sur internet, et finalement le procès il a quand même lieu et le pilote il est pas du tout accompagné.
Ouais, mais ce genre de choses existe dans le football où t'as la commission de discipline, mais c'est pas pour autant que ça a changé réellement les choses. Sincèrement, moi je serais plus dans l'idée d'avoir un responsable un arbitre, voilà, un mec qui connaît parfaitement les règles, autant qu'il y a un commissaire qui soit là pour lancer le safety car, pour les choses à prendre. Mais dès que t'es dans la sanction, que t'as un règlement à respecter, t'as un arbitre, une personne qui est désignée au long de l'année, qui connaît parfaitement son règlement, qui se montre autant choisir au plus intègre et qui prend la décision.
Ça devrait être Whiting, c'est lui qui écrit le règlement. Je ne sais pas pourquoi lui, en écrivant le règlement, c'est pas lui justement qui l'applique, puisqu'il le connaît
parce que le problème, et là on arrive dans le problème inverse, c'est que le problème, c'est que si tu confies à Whiting le règlement, automatiquement, qu'est-ce que vont faire les autres? Ils vont rejeter sur la personne. Ils vont dire, ah bah, de toute façon, Whiting, il prend toujours des décisions et compagnie, il en a après moi ou un truc dans le genre. Là où, avec ce système de commissaires qui sont généralement pas les mêmes, c'est des personnalités tournantes de la FIA, plus des pilotes qui varient plus ou moins, c'est généralement Nigel Mansell, ou Derek Warwick, là, t'as pas une personnalité derrière où tu peux dire, tiens, lui, il en a après moi, il arrête pas de m'aligner et compagnie. Alors que le mec, effectivement, il aurait tout le temps la même vision du règlement, il appliquerait tout le temps de la même manière. Mais, il serait pas incarné cette sorte d'autorité. Il préfère avoir quelqu'un qui on pourra pas remettre en cause les commissaires. Quand tu prends Lewis Hamilton qui remet en cause les commissaires l'an dernier, ça a aucune validité parce que de toute façon il dit je suis souvent convoqué par les commissaires. Oui, mais c'est jamais les mêmes.
Oui.
Donc, tu peux pas leur reprocher qu'ils en ont après toi, c'est jamais les mêmes. Donc en même temps, c'est une barrière contre ça. Le problème, c'est que comme ils sont jamais les mêmes, ils appliquent jamais les choses. Donc la nécessité, c'est d'avoir
quelqu'un de fixe avec des assistants qui changent.
Voilà, ouais. C'est-à-dire que soit quelqu'un de fixe qui prendra le truc, qui sera tout le temps là, qui effectivement assistera les commissaires et qui sera là pour vraiment incarner le règlement, soit tu prends au contraire tout le temps tu restes sur le système actuel, mais derrière t'as un règlement qui est béton, qui est très clair, et que quand il y a un problème ou qu'il y a un pilote qui est pas content dans la presse, il y a un mec qui vient, un représentant des commissaires, qui dit attendez, l'article 29.7 B du règlement, il stipule ça, on a fait que suivre ce point-là du règlement. Alors, c'est qu'aujourd'hui le règlement, il y a des trucs t'es même pas capable. Enfin, on a eu des questions répondeurs cette année, c'est même pas indiqué dans le règlement. Quoi. Donc, tu peux même pas expliquer aux gens si c'est faisable ou pas. Non, c'est pas dans le règlement, on peut pas vous dire. T'imagines le commissaire, toi.
Oui. Gardons espoir. Peut-être qu'il en sortira de bonnes choses, hein, de ces discussions. Passons à une autre. Si on part pas optimiste, tu sais. On va passer à un autre sujet. On va passer à Mark Webber. Mark Webber qui donc a re-signé.
Le traître.
Il peut pas être traître puisqu'il y était pas chez Ferrari.
Non, mais il y était presque.
Qui a re-signé pour un an. C'est devenu une habitude chez lui. Et peut-être que finalement, cette grande saison des transferts va peut-être être beaucoup plus calme que prévu quand on y pense. Hein.
Bah, on risque de rien avoir au final, quoi.
Le
jeu des chaises médicales, ça se décide entre Vettel et Hamilton, c'est ce qui risquerait de déclencher un petit peu tout. Même le déplacement de Weber, quoi. Hein. Mais au final, ça risque de. Je comprends Weber, quoi. Il a toute possibilité d'être dans une équipe, qui tourne bien implantée. Il est en âge où il a peut-être pas envie non plus de s'inscrire dans une nouvelle équipe et de revoir tous les protocoles pour s'y adapter.
Mmh. Bah, il l'a dit, hein. Il a dit, chez Ferrari, j'aurais pas pu me battre pour le titre.
Ouais, oui. Voilà.
c'est clair, quoi. Ok, d'accord. On te comprend.
Mais il a été confirmé on va pas dire qu'il y a eu des discussions avancées, mais il a été contacté. Ah bah.
Il y a eu des discussions pendant plusieurs mois. Il y a eu des discussions alors il y a des premières rumeurs qui disent qu'en fait il aurait voulu un contrat de 2 ans avec un salaire de 10 millions d'euros par an. Donc ça fait 2 millions de plus que ce qu'il est payé chez Red Bull actuellement. Et Ferrari ne lui reproposait qu'un contrat d'un an avec 7 millions d'euros.
Ah oui.
Voilà. Le mec se dit, alors, un contrat d'un an, fin 2013, je me retrouve sur la paille.
En plus, je sais très bien que si j'y vais, je serai numéro 2.
Je vais toucher moins, je serai numéro 2. C'est le mec, tu sais pas con, quoi. Bien, loup. Et d'ailleurs, ça se voit que ça a discuté, puisque, dans le même moment, au moment où on officialise Weber, au même moment, il y a Ferrari qui met un truc sur son site comme quoi, on n'est pas pressé de confirmer Massa et compagnie. Donc, c'est forcément qu'à un moment donné, Weber, il les a appelés la veille pour leur dire, bon, les gars, en fait, je vais renouveler chez Red Bull, et il a fallu se dire, bon, alors, attention, chez Ferrari, il faut qu'on se prépare, parce qu'on va nous poser la question. Devançons les questions.
Oui, mais il y a peut-être aussi parce qu'il y a deux pistes. Hein, pour eux.
Oui.
Voilà, c'est peut-être.
Bah, c'est sans doute, c'est que ça confirme.
C'est histoire de
que
dire,
oui. Ils cherchent un
remplaçant. Voilà, c'est histoire de dire, bon, on n'a pas pris Weber, mais ceux qui sont intéressés, rassurez-vous, hein, ça veut pas dire non plus qu'on reprend Massa automatiquement. Voilà.
Massa qui a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire, c'est qui voyait pas de raison de quitter Ferrari. Mais le problème c'est que on te demande pas d'avoir des raisons de quitter Ferrari, c'est plutôt Ferrari qui trouve des raisons de te quitter toi. Donc, du coup,
il faudrait qu'il trouve des raisons de rester, plutôt l'inverse.
Oui, voilà.
Non, mais ça a dû être son premier cours d'italien qui a dû lui faire peur, qu'on lui a voulu lui a faire apprendre. C'est comment, ouais. Alonso, Andrea et puis Veloce, DTI, Ai Capito.
Oh, l'horreur.
C'est la première fois que t'apprends là-bas.
Oui, mais le problème, c'est que si on te l'apprend comme ça, t'es mal barré.
Je sais. Et, désolé pour mon accent italien qui est pas parfait. Je n'ai absolument
non, pas non, c'est vrai, accent, c'est la grammaire.
Sa victoire, elle a compté d'après vous, ou c'est juste concordance des temps, entre guillemets?
Oh non, ça a compté, apparemment ça a même précipité les choses.
Mmh. Ouais, je pense aussi, oui.
C'est vrai que toi, t'as ta théorie du numéro 1 qui veut, ils veulent absolument garder le numéro 1 pour l'an prochain.
Bah non, mais c'est pas forcément le garder, mais si Weber est champion avec Red Bull et que l'année prochaine il va chez Ferrari, qui va se faire du beurre avec quand même le numéro 1 sur sa voiture et compagnie, c'est Ferrari et pas Red Bull. Il y a quand même un enjeu économique derrière. On se rappelle ce que ça a coûté à Renault.
Attention, Red Bull ne se fait pas du beurre, ils se font des canettes Red Bull.
Oui, c'est vrai. on se rappelle du précédent de Alonso qui est arrivé avec le numéro 1 et que tout le monde chez McLaren était très content d'avoir le numéro 1 sur la voiture. Même si c'est pas eux qui l'ont eu, mais mine de rien, derrière, t'as quand même le numéro 1, ça associe pas mal de choses, quoi. Donc, voilà, moi je reste convaincu qu'effectivement, il a prolongé, lui, dans un calcul aussi, de se dire, c'est ma chance quand même de me battre pour le titre, quoi.
Non, puis, enfin, l'an prochain sera pas forcément sa dernière année, parce que s'il est à l'an prochain, Red Bull peut être tenté de le garder comme il y aura le changement de règlement encore une année.
Oh, c'est pas sûr, parce qu'il a déclaré le contrat avec Red Bull n'est que d'un an, mais je pense rester en Formule 1 pour une période plus longue, peut-être avec une autre équipe.
Ah.
Donc en fait, le mec a signé un pré-contrat avec Ferrari en 2014, celui. 2 ans en attendant Vettel. C'est pas con ça en fait.
Ouais, mais à moins que Vettel y vienne en 2014, donc dans ces cas-là, faut garder Weber.
Ouais, mais Vettel il a dit qu'il avait rien.
Oui, bien sûr.
Non, Vettel, il a rien. Ouais, ça dépend de ce qu'a proposé Ferrari.
Ouais.
Mais du coup, les implications pour les autres transferts, c'est que Hamilton, il va probablement rester.
Bah, Hamilton, ouais, ça semble se tourner, ouais, vers rester, parce que visiblement, c'est juste des négociations au niveau du...
On parle de lui chez Lotus, hein.
Ouais.
Mais pour remplacer...
Ils ont des contrats, chez Lotus, Raikkonen a un contrat pour l'an prochain. Est-ce que Romain a un contrat pour le prochain?
Raikkonen a un contrat. J'adore cette phrase. Raikkonen a un contrat.
Quoi?
Le truc est vachement une garantie pour un pilote. Et... Je te rappelle que c'est quand même un mec qui avait un contrat de 40 et quelques millions, je sais plus, avec Ferrari.
Oui, mais, Lotus, ça n'est pas Santander. Ils vont pas payer plusieurs millions pour,
Ah, mais si t'as Hamilton qui vient avec,
Avec Vodafone? Vodafone Lotus.
Quand Alonso est arrivé, il est arrivé parce que Santander venait juste d'arriver. Ça se trouve, si imaginons que Coca-Cola décide de s'associer avec Lotus, à condition d'avoir Hamilton avec eux, bah, il faut dire qu'ils vont virer soit Kimi, soit Grosjean. Mais c'est pas trop le genre de Lotus de virer Grosjean. Je crois que Grosjean, il n'a pas un contrat pour l'année prochaine, il a un contrat avec option.
Moi, je dirais rien. Il y a quelques émissions, on s'est moqué de moi parce que j'avais lancé cette hypothèse et je trouvais que c'était le plus grand, mais en fin de compte, on revient.
On Massa... revient dessus,
mais ça. Ah non, mais moi, je me moque toujours de cette hypothèse. Attention. Massa... C'est juste que, voilà, c'est un bruit qui court en ce moment, comme quoi il pourrait peut-être aller chez Lotus. Mais ça reste une idée à la con. Bon,
Massa, après, bon, on sait pas à quoi il va être mangé. Après, vu les résultats qu'il commence à avoir, on commence à se dire, il pourrait peut-être rester. Donc chez Red Bull, ça va pas changer. Reste chez Mercedes, comme toujours la question Schumacher, mais ça, on sait vraiment pas.
Bah. Mais après, ça peut aussi être beaucoup plus fou, c'est-à-dire que on était parti sur un schéma où tout semblait, enfin voilà.
Logique, oui, c'est vrai.
On savait plus ou moins où voilà, si Weber vient, c'est Hamilton qui va arriver chez Red Bull, donc du coup chez McLaren, bah on peut envisager peut-être une arrivée de Rosberg, pourquoi pas. Bah non, quoi, Rosberg il est en contrat, mais peut-être Di Resta ou Hülkenberg, un mec qui sera arrivé comme ça. Donc on imaginait un peu des pièces. Maintenant, on se retrouve avec une pièce qu'on pensait qui allait bouger, qui allait changer les choses de façon logique, qui bouge pas. Donc derrière, on se dit peut-être que, peut-être que les choses vont bouger, mais que ça sera pas les mecs qu'on attend. Bob Alainen chez Ferrari, genre,
Allez, 2013, Grosjean chez Ferrari, Hamilton chez Lotus, et Pérez chez McLaren.
Bah, en plus, complètement. Bah en plus, ça serait plus intelligent, comment dire, de s'y prendre dès cette année, parce que va y avoir le développement de pour la nouvelle réglementation qui va se passer l'année prochaine. Oui. Il faut que quand même les pilotes, comment dire, que les écuries puissent compter sur des pilotes qui ont eu la main sur la voiture et qui vont pouvoir aider au développement. Si on commence le jeu des chaises musicales sur des sur une toute nouvelle réglementation et que le pilote se retrouve dans un véhicule qu'il n'a pas aidé à développer avec cette nouvelle réglementation, ça va être...
C'est pas trop au développement,
mais
parce que les pilotes vont pas rouler avec la voiture 2014 l'année prochaine, mais c'est plus en termes de s'acclimater à l'équipe.
Bah,
il faut qu'en 2014, le pilote débarque et qu'il s'acclimate non seulement aux nouvelles voitures...
Bah, sur simulateur,
mais en plus, à l'équipe et compagnie.
Oui, mais en 2013, ils vont commencer à développer les moteurs. Ils vont mettre les moteurs dans les anciens châssis, donc ça va être l'occasion pour eux de se faire la main sur ces moteurs. S'ils doivent changer d'écurie entre-temps, ils vont pas avoir l'occasion de participer aux essais s'ils savent dès juillet qu'ils vont changer d'écurie. Les autres vont pas leur faire tester un moteur qu'ils auront pas l'année d'après.
Ouais. Exactement.
Mais ils vont faire des essais en piste avec les moteurs en 2013.
Sûrement, oui.
Sûrement et même après.
Et à quelle occasion?
Mais comment dire même au-delà, il va y avoir
ligne droite peut-être déjà pour commencer.
C'est pas, y a rien de fait, mais ça semble pas illogique qu'il y ait des essais avec ces moteurs qui soient faits.
Il y a bien un moment ou un autre, ils vont bien falloir qu'ils testent les moteurs en vrai.
Et en même temps, il va y avoir le simulateur, plus le simulateur, ils vont essayer quand même de le configurer sur les nouvelles réglementations. Donc même si c'est pas IRL, ça reste du virtuel, il y aura quand même des choses qui vont être faites. Il va y avoir quand même aussi la participation des ingénieurs sur les développements des nouvelles pièces. Et prendre en considération la voie qui va être approchée par l'écurie, dans quelle direction ils vont essayer précisément. Et je pense que c'est quand même assez important pour un pilote de voir le développement qu'il va avoir dans l'année à venir et pour l'écurie aussi. C'est ça qui me paraît vraiment bizarre, si que les choses n'aient pas bougé cette année. La chose qui
pourrait... Le truc aussi, s'il prolonge Massa, ça sera pas que pour un an.
Oui, à mon avis, ouais.
Oui, ça peut pas être que pour un an. C'est s'il le prolonge pour faire venir un autre mec pour 2 ans. À moins que ce soit un autre mec, genre, par exemple, il prolonge Massa un an, le temps de faire mûrir Pérez. Pérez qui aura toujours un moteur Ferrari au-dessus l'année prochaine. Et donc, qui pourra faire des essais pour Ferrari sans problème. Et donc, il pourra peut-être passer chez...
Et en même temps, comment dire, l'importance d'un deuxième pilote, Massa, je pense qu'ils peuvent s'en séparer assez rapidement. Ça va être par exemple un Alonso sur lequel ils vont compter pour le développement de la voiture, qui est important. Le deuxième pilote, ils peuvent s'en débarrasser, quoi. C'est pas ça qui
va. Ça dépend de qui ils veulent.
Ah oui, après, par contre, derrière.
C'est-à-dire que moi, maintenant, je pense vraiment que la clé des transferts, c'est plus un pilote. La clé des transferts, c'est 2014.
Ah oui.
On voit bien dans le cas de Ferrari, le choix du deuxième pilote pour 2013 va beaucoup dépendre de ce qu'ils veulent faire pour 2014.
Exactement.
Est-ce qu'ils veulent faire une Dream Team avec Alonso, Vettel dans la même écurie pour 2014? Dans ce cas-là, effectivement, pour 2013, c'est soit prolonger Massa, parce que tu peux pas faire venir un autre mec pour lui dire, écoute, tu restes un an. Ils ont essayé avec Weber, apparemment, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Ou alors, si tu prends un mec spécialement pour l'année prochaine, tu vas le prendre, mais ça sera pour minimum 2 voire 3 ans, je pense. Dans l'idéal, ça serait de prendre un mec qui sera là de 2013 à 2016, voilà. Minimum. Comme ça, 2016, Vettel, il arrive. Alonso, il reste s'il a envie. Ce sera en fin de contrat. Si jamais Alonso veut partir, il pourra peut-être prolonger à côté de Vettel, le pilote. D'où, comme à Leiden.
Quand même, je pense que Ferrari, ça les tente. Hein. Une Dream Team Vettel-Alonso...
C'est quand même un paquet d'emmerdes, s'ils s'entendent pas.
C'est soit le paquet d'emmerdes, soit le bonheur absolu. C'est l'un ou l'autre.
C'est...
Hein.
C'est deux mecs qui sont quand même habitués à avoir une écurie qui marche autour d'eux et quasiment essentiellement pour eux. Et voilà, ça leur fait du bien, tu me diras.
je pense que ça serait vraiment, vraiment difficile, quoi. Deux égos démesurés que l'un et l'autre ont, ça risque de clasher méchamment. Vraiment, il faut séparer les deux équipes, ingénierie et haute, de chaque côté. Mais...
Et là, du coup, chez Ferrari, on reparle de Rosberg. En Italie, ça y est, on reparle de Rosberg. Ok, d'accord les mecs, ok. Vous voulez pas parler de Button, non? Ça va?
Non, pas en ce moment, je crois qu'il a pas la cote en ce moment.
Cartillon.
Oh non.
Allez, on va passer à Tonton Bernie Ecclestone, qui est à 100% sérieux pour le Grand Prix de Londres.
Ouais.
Qui est pour un Grand Prix de Londres, mais pas forcément pour le Grand Prix de Londres proposé en tout cas montré par Santander. Non. Petite
précision. Ça sera d'ailleurs peut-être plutôt le deuxième projet, parce qu'il y avait, c'est-à-dire que le projet vu par Santander a éclipsé quand même l'annonce d'un autre projet qui était de recycler les installations olympiques et notamment le stade olympique. Mmh. Et on a appris aujourd'hui de sources officielles que 4 projets étaient à l'étude pour reprendre les installations, et que parmi ces projets donc il y avait une société de, enfin la société de transport ou je sais plus quoi machin associée à la Formule 1 donc pour faire un circuit de Formule 1. Mmh. Et notamment aussi le club de West Ham.
Oui. Parce qu'il y avait déjà eu des propositions, ça a merdé donc ils ont relancé entre guillemets des candidatures en fait.
Il y a beaucoup de choses qui merdent en ce moment autour de Londres. C'est voilà, c'est... je les sens bien moi ces jeux.
Ah. Hey, on annonce un très beau temps.
Oui, mais quand même.
Ouais, mais le temps d'accès au stade, circulation haute. Mais si Bernie a l'idée d'aller voir les Jeux Olympiques, tu vas me dire, lui, il aura peut-être la chance d'arriver en hélico. Mais quand tu vois le flot de circulation haute, même organisé incompris, ça risque d'être un petit peu le boxon quand même. Hein. Parce que même le périph parisien à côté d'une bretelle à Londres, c'est...
La M35, c'est rien le périphérique de Londres.
Donc du coup, peu à peu, hein, le Grand Prix de Londres devient, je ne vais pas dire réalité, mais devient un projet concret qui pourrait effectivement voir le jour. Il manque plus qu'aujourd'hui quelqu'un... apparemment, c'est la Formule 1 directement qui est impliquée, plus c'est un truc transport machin en Grande-Bretagne. Il suffirait qu'ils montent un projet, qu'ils fassent une annonce comme quoi ils sont candidats et compagnie, ça deviendrait vraiment sérieux. Et comme on sait que Bernie Ecclestone, il signera, il est même prêt à payer les droits d'accès au calendrier, alors là, tu te dis, bon, il suffit juste de monter un projet, et après c'est bon.
Bon, voilà.
C'est l'inverse des JO, on a besoin de convaincre personne, ils sont déjà convaincus. On a déjà tous les votes. Maintenant, il faut juste qu'on fasse... Ah non, en fait, c'est comme les JO, en fait.
Mais c'est vrai que, comment dire, en image de marque, ça sera... je suis sûr qu'il rêverait de ça, quoi, d'avoir un Grand Prix de Paris, d'avoir un Grand Prix de Londres. C'est des villes qui ont une notoriété mondiale beaucoup plus importante que dire le Grand Prix d'Angleterre ou le... Ça, c'est, sur l'affiche, ils pouvaient mettre Ben ou la Tour Eiffel.
C'est, ouais. C'est vrai que t'as raison, on parle souvent de l'accessibilité. Là, le problème, c'est... En fait, il est quasiment le même qu'en pleine campagne, mais renversé. C'est là le problème, c'est qu'il y a tellement de bagnoles que tu circules pas.
mais l'avantage de la ville aussi, c'est qu'il n'y a pas que la bagnole.
C'est vrai.
Là où à Silverstone, par exemple, quand tu vas à Silverstone,
tu peux pas y aller en métro. On est d'accord.
Mais il y a ça aussi, c'est pas non plus anodin quand il fait cette déclaration. On sait qu'il est pas très ami, il l'a reconnu, il est pas très fan de Silverstone. On sait qu'il a essayé de s'en débarrasser ces dernières années pour aller dans un endroit encore plus paumé, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, son soutien aussi à un Grand Prix de Londres, même s'il est très clair en disant que ça menace pas le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais quand même, c'est mettre la pression encore plus sur Silverstone en disant, voyez, on va faire un Grand Prix en plein centre-ville et tout, il y aura, ça sera plus facile d'accès et compagnie. Ok, d'accord. Donc nous, en fait, il faut qu'on fasse une autoroute à 15 voies pour aller jusqu'à Silverstone.
Ouais, c'est je t'avoue que quand j'ai lu même le voir essayer d'être aussi sérieux que ça sur la tenue, ça m'a quand même vraiment fait sourire, quoi. Ah, bah, deux doigts de
deux
doigts.
Encore quelques milliers de bagnoles en plus sur la M25 de Londres. Ça n'a pas de prix.
Bah, et c'est surtout moi ce qui m'a scotché, c'est de voir Bernie dire qu'il serait capable de laisser filer les 45 millions d'euros exigés pour.
C'est ça qui est suspicieux.
C'est ça qui. Là,
c'est
qu'il est prêt à payer, quoi.
Là.
On parle de Bernie prêt à payer pour un truc.
Je te jure, j'ai regardé la date, j'ai dit on est le 1er avril, quoi. C'est pas drôle, les gars. Non, c'est impressionnant. Et là, ouais, j'ai eu un passement, non, il essaie vraiment de le faire, mais c'est. Ouais. Quand je vois le tracé, ouais, why not, un nouveau circuit de plus, mais j'en vois un.
Bah, le tracé, ce sera pas celui-là.
Ça sera un autre. Mais bon, moi, ça me dit, sincèrement, ça me dit rien du tout, quoi.
Et sur les 45 millions, combien il y a de pots de vin, votre avis?
Ah, les trois quarts, comme d'hab. Hein. Et en plus, il sera bien remboursé avec, des commissions d'État, quoi, des investissements d'État, des trucs comme ça. Donc t'inquiète, qui récupérera quand même une partie. Hein. Tout investissement, t'as quand même une part qui revient.
Hein. Oui. Quand même, franchement, ça aurait la gueule. Bon, moi, je veux pas dire, mais les F1 dans le stade, moi, je vois déjà un peu le tracé que ça pourrait faire. Genre petite boucle comme il y a à Shanghai, juste avant la grande ligne droite, l'espèce de petit escargot là, avant la grande ligne droite. Et tu dis, ah là, ça dans le stade, bah, ça, ça pourrait bien le faire. Tout le monde pourrait aller voir, tu payes une place au stade, tu vois un dépassement, c'est nickel.
Ah, t'as couvert et tout, ouais, ouais, why not.
Il est pas couvert, hein, je crois.
Non, oui.
Non,
mais non, il est partout, mais...
En fait, à la base, il devait être, comment ça s'appelle?
Une toile, un truc comme
tout
ça.
Tout en métal. Il devait être tout en métal, en fait. Il devait être super beau, tout en métal et tout, tout en acier, mais le problème, c'est que c'était trop lourd pour la structure.
Ouais.
Ils se sont rendus compte juste avant de présenter le stade. Et donc, du coup, c'est un mec qui est venu, il a dit, on a qu'à faire un toit souple, en fait.
Mais par contre, il va être bien éclairé, hein, parce que dans chaque triangle, en fait, il y a les Projo. Il y a un beau triangle de Projo dans chaque triangle.
Mais avec tous les stades qu'ils ont à Londres, ils en avaient pas un avec une piste d'athlétisme.
Mais non, mais faut avoir un héritage.
Tu parles, nous on allait faire
construire un stade, c'est obligé.
Nous c'était le stade de France Paris 2012, tu parles.
Oh, le stade.
Mais je suis pas sûr. Le pire, c'est que je suis pas sûr que des stades avec une piste d'athlétisme, il y en ait beaucoup.
Mais c'est vrai que les stades de foot anglais, ils sont
les
spectateurs, ils sont super proches. À Londres, un grand meeting d'athlétisme.
Oui, mais c'est un stade. Non, c'est un stade d'athlétisme. Hein. C'est un stade spécialisé pour.
On s'en fout. Voilà, il y a besoin d'un stade d'athlétisme pour les JO.
Mais ouais, non, mais après c'est le nombre de places.
Aussi, oui.
C'est ça qui rentre en ligne.
Oh, tu rajoutes des tribunes, hein, c'est bon.
Oui, et puis tu mets une gazinière pour la flamme olympique et c'est bon.
Voilà, tu fais chier, c'est vrai.
Ah, est-ce que ce sera l'enfer sur la M25?
Oh ouais, c'est certain, quoi. Même le métro.
Non, mais je crois que il y a quelques semaines, il y a une station du métro qui a été complètement inondée. C'est voilà, c'est non seulement déjà le métro il est surchargé, mais en plus, de temps en temps, le métro il est inondé.
D'ailleurs, dans un des romans de Terry Pratchett et de Neil Gaiman, ils expliquent que la M25 est une œuvre du diable. ils expliquent qu'en fait, quand, parce que c'est une histoire avec un ange et un démon, et le démon explique qu'en fait que quand ils ont construit la M25, en fait, il a déplacé les cônes de façon à ce que le tracé exact de la M25 ressemble en fait à un truc mystique, diabolique, exprès pour générer des embouteillages. Complètement con. On va passer à la dernière actu et on va parler encore de circuits, puisqu'on a eu des reconductions de contrats. Donc il y a eu Spa qui a été confirmé au moins pour 3 ans, mais aussi Singapour qui...
Non, ça a été nié.
Alors c'est... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Sachant que normalement c'est la dernière année de contrat cette année. Ou c'est l'an prochain. C'est cette année, oui.
C'est cette année, ouais. Ouais, mais les négociations vont être chaudes parce que comme Bernie va y avoir l'introduction. Oh, je vais pouvoir le placer. Pour une fois, il va y avoir l'introduction de la F1 en bourse et qui doit se passer justement à Singapour.
Crois que ça a un impact sur le Grand Prix?
Ah oui, sur les conditions d'entrée, sur la valorisation à l'entrée. T'inquiète que la ville de Singapour a ses entrées auprès de la bourse de Singapour. Donc, si tu veux avoir une meilleure valorisation des taux d'entrée sur le marché.
N'oublie pas qu'on est à Singapour, donc tout est plus ou moins dans les mains d'une même famille. Donc oui, c'est toujours un petit peu lié quand même.
Donc ils vont essayer de tirer les prix au plus bas, tout en sachant que ça rapporte une fortune à la ville de Singapour. C'est vraiment quelque chose qui a rapporté quelques centaines de millions d'euros sur les années où la F1 est arrivée. Mais ils vont mettre la pression maximum pour payer le moins possible. Là-dessus, je me fous.
Clairement, ça a fait découvrir Singapour à plein de monde, je pense. Hein.
Oui.
Qui connaissaient le nom et qui ont découvert à quoi ça ressemblait.
Autant d'ailleurs.
Un pays où t'es hors la loi si tu bouffes un chewing-gum.
C'est vrai, on vous déconne pas, tu peux faire de la prison. <C'est vrai. rire> Donc sinon, Spa, pour 3 ans par contre, Spa, parce que c'est donc 2015, c'est ça, normalement.
C'est vrai que j'en ai rien à foutre de Spa.
Hein?
Mais non, mais pas que ça m'intéresse pas. Pas que ça m'intéresse pas, mais j'estime que, de toute façon, quoi qu'il arrive, la F1 ne peut pas se passer de Spa. Ah. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y aura un contrat. La preuve, là, on disait il y a un an, on disait, ils vont pas s'en sortir et compagnie. Oh, comme par hasard, ils nous sortent un contrat. Voilà. Donc, je suis convaincu que, de toute façon, ils arriveront toujours à s'entendre pour trouver moyen de poursuivre le Grand Prix. Donc voilà, la preuve, c'est tout, ils ont trouvé un contrat. Donc, en fait, maintenant, Spa, je me dis, voilà, je m'en fous. Et à chaque fois, ils nous diront, oh, il y a pas le Grand Prix, compagnie, c'est pas sûr qu'on reste, puis au final, ils vont nous en sortir un contrat de 3 ans, donc voilà.
Gus, non, tu veux réagir?
Non, c'est une bonne nouvelle, et moi je veux rejouer aussi de Singapour, c'est un circuit que j'aime bien. Les courses, elles sont longues, et moi j'aime bien ça.
Parce qu'il y a eu des discussions sur l'intérêt de Singapour, on est d'accord, le tracé en lui-même, Bon, bah voilà, ouais. Hein, c'est...
Oh, le virage qui dure avec Hélène.
À part péter des suspensions, en effet, bon... Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être plus, en effet, le côté endurance, le côté défi physique, puisque même si il fait nuit, il fait extrêmement chaud, et c'est une des courses qui, même en temps normal, fait vraiment près de 2 heures. Ouais. Allez, on va passer aux actus dont tout le monde se fout. En tout cas, nous, enfin, on se fout de certaines.
Et surtout Fab.
Oui, non, mais... C'est pas la même chose.
Oh non, Fab, il s'est foutu de toutes les news.
Oui, oui.
Alors là, monsieur, pour réviser la constitution cubaine, il est super balèze, mais par contre, pour les news de la F1, il y a vraiment rien qui l'intéresse.
Et on va commencer par Ben, qui a mis en première actu quand même Alain Prost estime que McLaren doit réagir dès Hockenheim. En même temps, il le faut, oui, là. C'est vrai, il faut qu'il réagisse dès Hockenheim.
Bah ouais, ça semble... Bah oui, c'est une lapalissade.
Sinon, il a mis Tost qui est impressionné par Ricciardo et Verne.
C'est surprenant quand même.
Ça m'a fait rire. Ça m'a beaucoup
mais
fait
est-ce
rire.
Mais est-ce que Helmut Marko est impressionné par Ricciardo et Verne? Parce qu'il y a aussi ça quand même qui est important.
Non mais c'est encore une fois, quand tu regardes le timing, ça passe juste derrière l'officialisation de Weber. Donc c'est voilà, c'est le côté oui, on a gardé Weber, mais c'est juste parce que on est quand même satisfait hein, de nos pilotes, parce qu'ils sentent bien que derrière, tout le monde sait très bien que s'ils ont officialisé Weber, c'est parce que il y a pas de relève
oui,
derrière.
Oui, c'est trop tôt pour l'instant.
Donc voilà, donc derrière c'est le patron d'équipe qui rassure en disant non mais quand même ils nous satisfont et compagnie. Voilà, c'est purement la déclaration de réaction.
Puis de toute façon, on les voyait mal. De remplacer directement Weber avec seulement un an d'expérience. Quand chez Toro Rosso, oui. Qui est souvent pour 2 ou 3 ans, plutôt que pour 1 an et passer directement, il faut s'appeler Vettel pour faire ça.
Mais à la limite, justement pour 2014, en espérant qu'il soit au moins reconduit pour l'an prochain, ça serait déjà
C'est risqué parce que Buemi espère faire des vendredis matin avec Toro Rosso, quand même.
C'est vrai, oui.
Moi, je me dis, bientôt, Sébastien Vettel va demander à retourner chez Toro Rosso, tu vois. Là, je me fais chier chez Red Bull. Allez, emmenez-moi chez Toro Rosso, ça me manque.
Sinon, une actu que Ben a citée, mais il n'a pas été le seul, puisque Dino et moi aussi, on l'a cité, mais ça n'a pas récolté assez de points. C'est Massa qui est donc a avoué, en tout cas a dit qu'il est aidé même par un psychologue pour l'aider justement. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien marché.
Il semble comment dire avoir vraiment besoin d'une grosse motivation ou d'un gros entourage affectif quoi. Je sais pas, il donne l'impression d'avoir une chute de morale qui peut arriver très rapidement avec quelques mauvais résultats. Mais c'est vrai que si un soutien psychologique, ça peut l'aider. Ça existe dans pas mal de sports.
Voilà, si ça l'aide et que visiblement ça a l'air de marcher, c'est bien.
Ah ouais, non, c'est
mais surtout, c'est j'ai pas l'impression que ce soit exceptionnel. Enfin, aujourd'hui, on en voit de plus en plus de sportifs.
Non, mais parce qu'aujourd'hui,
dans des clubs de foot où il y a des psychologues et
compagnie. Non, il y a mieux que ça. Il y a des coachs.
Oui, non, mais il y a aussi des professionnels. des gens qui savent ce qu'ils font, quand tu sais, qu'on a des diplômes.
Oui, bien sûr.
Pas juste ceux qui les ont vus de loin dans une pièce au fond. Non, ceux qui les ont vraiment. Il y a leur nom dessus, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais voilà, enfin, je sais que par exemple, je crois que l'équipe d'Allemagne de football, ils ont des psys dans le staff de l'équipe d'Allemagne.
Est-ce qu'on sait s'il y a des psys dans l'équipe de France de foot?
Non, il n'y a pas de psy, non. Faut bien y penser.
Voilà.
Non, il faudrait d'abord mettre des mecs avec des tasers et des flashballs, mais après,
mais rien qu'en Formule 1, de toute façon, on entreaperçoit un peu le travail que, rien que Lewis Hamilton, lui aussi, il a eu recours à un nouveau manager pour mettre un peu les trucs dans l'ordre. Et ça a fait un peu moins de publicité que ça, mais pourtant, on voit que ça a réussi.
Ça peut surprendre dans le fait qu'on dit qu'un pilote de F1 qui met sa vie en danger, a une force de caractère qui est au-dessus de la moyenne et donc justement une motivation au-dessus, et il devrait pas avoir le besoin ou le recours d'un psy. C'est peut-être ça qui peut surprendre.
Il y a aussi une question générationnelle. Si tu dis à Stirling Moss ou à Jackie Stewart, vous avez besoin d'un psy, je te dis pas quelle tête ils vont te faire.
Ah ouais, j'aimerais bien l'audace sur cette réaction là. Ouais, ça pourrait être
l'audace, il doit choisir un médecin, c'est pas un psy.
Sinon, une actu que moi j'avais cité, c'était Coca-Cola pour remplacer Vodafone chez McLaren.
Ouais, Coca-Cola.
Avec peut-être, parce qu'il paraît qu'ils ont, on n'a rien vu, hein, mais si Coca-Cola arrive chez McLaren, peut-être qu'on reverra des McLaren rouges et blanches.
Oh non.
Ils auraient fait des essais entre guillemets de livrée. Hein.
Avec des bulles à l'intérieur.
On sait pas, mais voilà.
Ou sinon en Coca Zero quoi, en noir et blanc, ça aurait pu le faire.
Ouais,
ah c'est pareil, on aurait pu.
De toute façon, c'est un sponsor qui au niveau des couleurs, hein, j'entends, peut bien coller, ce qui est drôle pour du Coca, à McLaren.
Oui.
Mais c'est un peu un marronnier, Coca en F1, de toute façon. C'est souvent qu'on dit, ouais, ils sont intéressés, mais qu'au final, ça se fait pas trop. Faut voir.
C'est surtout que j'arrive pas à voir quelle autre équipe ils sponsorisent comme, enfin, ils sponsorisent surtout des sports, des événements.
Oui, voilà, c'est...
En NASCAR, il y a une Coca-Cola Family où il y a plusieurs pilotes qui sont concernés, par exemple.
Ouais, mais c'est pour vendre des produits Coca-Cola. Les voitures sont aux couleurs de différents produits, mais il n'y a pas de couleur Coca-Cola.
Ni de sportif particulier, ni d'équipe particulière, que ce soit en F1 ou dans d'autres sports. C'est tellement une marque mondiale que voilà, ils se disent, nous, on ne sponsorise pas quelqu'un ou une équipe, on sponsorise des événements mondiaux. Parce que par contre, Coca-Cola, sport. Vous allez en bouffer pendant 3 semaines, hein. Ça.
Ouais. ils font dans l'institutionnel, quoi. Ils sont plus au cas par cas comme Red Bull ou
Monster. C'est d'être en opposition avec Red Bull.
Ah oui.
Là, mais évidemment, ils sont en opposition directe sur le secteur.
Mais de toute façon,
ils ont qu'à créer leur équipe, Coca-Cola Effective, avec Tony Stewart et Juan Pablo Montoya. Mais on adore le Coca-Cola. Regardez-nous,
grosse monocoque en perspective.
Ah, et tu pourras ajouter McDo sur le droit arrière, quoi. Ça ira impec. Hein.
Ensuite, alors Gus nous a donné en direct de Silverstone avec Jules Bianchi. Mais ça, c'était une spéciale dédicace, comme on dit.
Oui, c'était pour féliciter Clément, qui était notre envoyé spécial de Fan F1 à Silverstone et qui a fait du bon boulot. Il a notamment, il a ramené 4 interviews de pilotes. Donc c'était juste pour lui faire un petit clin d'œil.
Ouais, c'était vraiment intéressant, quoi. Félicitations lui, parce que c'est vraiment, c'était vraiment sympa à suivre, quoi. Tu suis le Twitter, t'as les informations qui arrivent à la seconde et même les interviews, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est vrai, vraiment un bon boulot.
Et enfin, bien sûr, on finit avec le moment Steph Core. Mais là, cette fois-ci, il est là, hein, donc il va pouvoir se défendre.
On va se foutre de sa gueule. Ah non, je dis des moments Steph Core, c'est généralement, on n'entend pas Steph Core. On se fout juste de sa gueule.
Alors, Steph, tu nous as donné l'Oda juge Alonso difficile à battre pour Hamilton.
Ouais, parce que ça m'a vraiment... son intervention, comment dire, j'ai trouvé assez intelligente et... bien construite, quoi, et surtout qu'il a été parfois un petit peu en froid.
Non, c'est avec l'article bien écrit.
C'est vrai que j'avais pas remarqué, ouais. J'ai trouvé vraiment intéressant, et en même temps, il a raison, quoi. La force de caractère d'Alonso fait tout au sein de l'équipe. Il a déjà une avance vraiment très très importante, à part, le fait de voir sur les améliorations qui vont être pouvoir portées par les équipes sur les trains de pneus, il reste quand même le meilleur pilote. Et il a raison d'insister là-dessus, quoi, parce que je pense aussi que, et tout le monde commence à vraiment s'en rendre compte, c'est le meilleur pilote actuel en F1. Et faut vraiment pousser le souligner, quoi. On a placé Vettel, voilà, mais on se rend compte qu'il y a quand même encore une marche à attendre, à franchir à Vettel avant d'atteindre le niveau d'Alonso.
Mais dans le match, parce qu'il y a un match,
Alonso avait clairement dit
à Vettel que, il a clairement fait comprendre que maintenant c'était le premier qui serait 3 fois champion du monde. Et là, cette année, il montre que c'est lui le patron, quoi.
Alonso est la définition même du grand champion de F1, c'est le type qui, avec une voiture moyenne.
Exactement.
Voilà, il arrive à donner 110% à sa voiture. Voilà.
Il serait pas en rouge pour être fan, hein.
Steph Core, tu nous as aussi dit Senna récompensé en Italie pour son fameux et Lorenzo Monti.
Ah, ça c'est pour m'énerver, ça.
Ah ouais.
Ça c'est pour foutre la rage. Mais comment c'est possible de donner le Bandini à Bruno Senna? Même lui, il est surpris. J'ai regardé le trophée et j'ai vu les noms. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Mais nous aussi, on se demande, Bruno.
C'est mieux ça comme actu.
Oui.
C'est mieux comme actu, ça, non? Ah oui, il a reçu dimanche.
Voilà.
Il l'a reçu dimanche. Il a été.
Mais est-ce qu'il est parti chercher avec sa voiture? Parce qu'il l'a eu pour l'an dernier, donc il aurait dû y aller en Lotus. Est-ce que seulement il reste des exemplaires de cette époque-là? Ils ont pas tous brûlé?
Mais non, ça m'a fait rire. Et j'avouais que je l'ai mise parce que justement j'attendais la réaction de Dino. Et j'ai eu la même quand je l'ai lu. J'ai trouvé ça tellement. Je trouve ça imbécile de la part du jury de l'avoir donné, simplement pour réussir à porter, sur le trophée, il va y avoir sur la plaque, il va y avoir marqué Senna. Il y aura jamais marqué,
je pense. C'est juste pour le dire, on l'aura au moins donné une fois à Senna, quoi.
Voilà. Et il y aura pas l'indication Bruno Senna, il y aura simplement l'indication Senna. Mais ça m'a tellement fait, je trouvais ça tellement ça ridicule, quoi, que c'est quand même à souligner et en parler. Sincèrement, je l'ai suivi au début, voilà, j'ai eu quelques espoirs au début, mais j'ai jamais eu dans l'idée qu'il pourrait être un grand champion, quoi.
Ah, puis surtout, il se bouge le cul quand il est menacé.
Exactement. Mmh. Ah, il est tombé dans la facilité. Et soit, quand il a commencé assez tard, mais il a eu toutes les portes qui se sont ouvertes devant lui, à un moment ou à un autre, t'es bien obligé de te dire que ce mec-là, il joue dans la facilité, même en caractère.
Et moi, c'est ce que j'ai dit. Enfin, là où Romain Grosjean s'est remis en cause et a été allé faire de l'auto-GP, ce qui peut être humiliant pour un ancien pilote de Formule 1 d'aller en auto-GP, faire de la GT1 et compagnie, lui, qu'est-ce qu'il s'est contenté de faire? Il s'est contenté d'attendre. Il s'est pas dit je vais retourner en GP2. Il s'est pas. Non, il s'est contenté d'attendre. D'attendre qu'on lui d'aller en tant que pilote troisième pilote chez Lotus et d'attendre. Voilà. Ça a réussi, mais derrière.
Et enfin, Steph, tu as mis Grosjean pénalisé de 5 places à Hockenheim.
Parce que c'était pour. Bah, comme on a eu la discussion tout à l'heure, c'était pour signifier le fait que cette foutue boîte de vitesse, ça m'énerve qu'il n'y ait pas un quota à l'année, quoi. Ça ouais. devrait être le minimum. Comme un moteur, comme autre, et qu'après le pilote se retrouve sanctionné pour une casse mécanique, mais il a pas tapé dessus au marteau, il a rien fait de volontaire pour la casser, et qu'il se retrouve pénalisé de 5 places parce qu'on a.
C'est pas une question de volontaire.
Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais parce que si on part comme ça, le mec est victime d'une casse mécanique en course et qui, on va prendre Vettel, on lui redonne les 25 points de la victoire à Valence? Parce non. qu'il était pas volontaire, c'était pas volontaire s'il a cassé d'alternateur.
Non, mais il a pas été, il s'est pas retrouvé 10 places en arrière, à la course, ensuite. Et le mec, il a perdu la course, voilà.
Oui, parce qu'il a déjà été pénalisé sur le coup de l'accident.
Oui, sur le coup de l'accident. Mais c'est bête, le mec, il perd 25 points. Il perd la possibilité de gagner la course. Et on lui dit, ah ben monsieur, vous avez cassé un moteur, on vous en remet une couche par-dessus. Et imagine que t'arrives, t'as un accident de voiture, on te remet une. D'accord, il y a un règlement, mais même dans la vie de tous les jours.
Mais là, on lui en remet pas une couche à Grosjean.
Ben si, dans le fait que s'il y avait un quota. T'aurais pas une pénalisation, de 5 places à chaque fois ou de 10 places à chaque fois, quoi.
Ce que j'aimerais savoir, c'est la notion de quota. D'accord, sur les moteurs, ça se comprend. Ils peuvent utiliser les moteurs un peu quand ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, par exemple, utiliser les boîtes, dire voilà, on met la boîte pour tel Grand Prix et on la ressort que 3 ou 4 Grand Prix après?
En fonction de l'usure.
En fonction de l'usure. Ils peuvent, ça?
Ah oui. Ah bah oui. Et t'inquiète que la boîte,
Dans ce cas-là, je suis d'accord. Maintenant, en ce qui concerne sur le principe du quota, je suis d'accord qu'il faut appliquer la même chose. Maintenant, sur l'aspect de la pénalité. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a un règlement technique qui stipule qu'une écurie doit faire 5 grands prix avec la même boîte de vitesse. Mmh. Il y en a certains qui le font. Ça se fait aussi à un prix, c'est qu'à un moment donné, avec l'usure des pièces et compagnie, ils sont aussi obligés de ménager la mécanique pour tenir ces 5 grands prix. Donc, ils tirent un certain désavantage à avoir une boîte qui tient 5 grands prix. Si d'ailleurs, tu pénalises pas les mecs qui cassent leur boîte au bout de 2 ou 3 grands prix, tu favorises les mecs qui cassent leur boîte régulièrement. Là, Lotus, par exemple, ils changent de boîte. Ils ont une boîte toute neuve. Ils ont une boîte qui est pas usée. Ils ont des pièces qui sont parfaites. Une boîte sur laquelle ils vont pouvoir tirer, faire ce qu'ils veulent. Si tu pénalises pas, derrière, c'est pas équitable au regard de ceux qui ont une boîte qui a tenu le délai légal. Donc c'est normal derrière qu'ils soient sanctionnés, qu'il y ait une pénalité de ce type-là. Et concernant le quota, j'ai avancé l'argument dans les commentaires sur FanF1. Le problème du quota, moi je suis pour, je trouve que c'est bien, ça donne des droits à l'erreur. Mais le problème c'est que si ça arrive en fin de saison, on va avoir des pénalités et les fans vont encore gueuler à cause des pénalités. Donc à un moment donné, moi je dis finalement, peut-être que cette règle d'avoir la pénalité directement au moment où tu casses, bah au moins ça a l'avantage de dissoudre ça un peu dans la saison. Et ça t'évite d'avoir la pénalité en fin de saison quand tu te prends le coup deux grands prix de la fin que tu joues le titre et que tu prends 5 places. Là pour le coup c'est plus important, ça te fait plus mal parce que c'est au moment de l'échéance finale.
Non mais c'est trop aléatoire. Tu peux avoir très bien le quota va te permettre d'avoir 5 boîtes donc de pallier, on va dire en gros si tu mets 5 boîtes de pallier quand même à un niveau d'aléatoire. Imagine que Grosjean là sur les 4 prochains grands prix, vraiment le coup de malchance, il n'en pète 4. À chaque grand prix, il va se retrouver avec 5 places à être rétrogradé, 5 places à
oui, mais si on prend un système de quotas. Si on prend un système de quotas, imaginons il en pète 4 au début de saison. Mmh. Il faut qu'il fasse le reste de la saison avec une seule boîte. Mmh. C'est pas possible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter une 6e boîte. Il prendra 5 places. Il va monter une 7e boîte. Il prendra 5 places. Oui. Et comme ça, jusqu'à la fin de saison. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de saison, il va se prendre aussi des places. Donc, le système de quotas, finalement, il est pas idéal par rapport au système de la pénalité.
Il est pas idéal, mais tu limites quand même vraiment de beaucoup, l'aléatoire sur une saison. Tu la limites quand même vraiment énormément. Et ça éviterait que de se retrouver directement pénalisé pour une casse. C'est quelque chose qui aurait dû être pris en compte logiquement. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas bête de la mettre, comment dire, de prendre ça directement en compte, que de laisser directement une sanction directe. Voilà, ça va être quoi la prochaine étape? T'as un pneu de crevé, tu perds 3 places à la prochaine truc. Je sais pas, je vois pas le. Et qu'au moins qu'il y ait une.
Mais ça n'a aucun rapport.
Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'au moins il y a une cohésion dans les décisions, dans la mise en place du
règlement. Non, mais là, tu peux pas parler de cohésion, tu compares des choses qui sont pas comparables. Un pneu crevé, tu payes le résultat tout de suite sur la piste.
Bah, tu casses une boîte, tu fais quoi?
Mais tu casses une boîte, le résultat, tu ne payes pas. Si tu casses une boîte entre chaque Grand Prix et que t'es pas pénalisé.
Entre chaque Grand Prix.
Il la pète pas entre le Grand Prix.
Ah non, moi je dis pendant un Grand Prix. S'il casse la boîte pendant le Grand Prix,
Non mais, on est bien d'accord que là, Romain Grosjean, par exemple, dans le cas précis de Romain Grosjean, il a commencé à avoir un problème de boîte à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne. On est bien d'accord qu'il a terminé le Grand Prix de Grande-Bretagne à la 6e place. Mmh. Que ça n'a pas eu d'influence sur son résultat. Mmh. Puisque c'est arrivé des dires de Lotus dans le dernier tour. Ils ont changé la boîte pour éviter que ça casse ce week-end. Mm-hmm. On est bien d'accord. Du coup, ils repartent avec une nouvelle boîte toute neuve, qui a pas de pièces usées, rien, tout nickel. Mm-hmm. Et avant ça, ils ont fait un Grand Prix avec une boîte qui a tenu que 3 Grands Prix. Mm-hmm. Pendant le même temps, d'autres écuries, on peut citer, parce que c'est eux qui ont pas eu de problème jusqu'à présent, Renault, Red Bull et Ferrari notamment, ces écuries-là, elles font avec chaque boîte, elles font les 5 Grands Prix. En assumant derrière le fait que il faut ménager les boîtes et compagnie, ce qui peut leur permettre de perdre un peu en performance ou en efficacité de la boîte. C'est bien normal qu'on pénalise le pilote qui a changé de boîte avant même d'avoir atteint le nombre de Grands Prix limite, ne serait-ce que par équité par rapport aux autres. Tu peux pas autoriser un mec à lui dire, ou alors t'autorises tout le monde à dire, tout le monde a le droit de changer de boîte quand il veut.
Mais depuis...
Le problème, c'est qu'à la fin, du coup, tout le monde peut mettre autant de boîtes qu'il veut.
D'accord, depuis le début, on se rejoint sur le fait que ils ont mis un règlement, ils l'appliquent soit. Mais moi, ce que je dis, c'est je remets pas en cause cette décision-là, c'est le règlement point barre. Ce que je remets en cause, c'est le fait de pas avoir un quota au départ. C'est ça qui m'énerve vraiment, de se dire qu'il y a un aléatoire qui fait que tu peux avoir un très bon résultat et le week-end d'après, tu perds 5 places sur quelque chose auquel t'as aucun recours. T'as un coup de pas de chance. Donc déjà, il a eu la chance, soit de finir la course.
Les coups de pas de chance, ils arrivent aussi.
Ils arrivent. Enfin,
voilà, c'est sur le vocabulaire que tu utilises, moi, que ça me dérange. Tu parles de chance. C'est strictement impossible d'explorer la chance.
Non, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il a eu la chance de pouvoir finir la course. Après, depuis le début, c'est que on devrait avoir un système de quota, non pas pour limiter la chance. Il y a toujours un aléatoire à faire une casse moteur, à faire une casse boîte, à péter une suspension, à péter quoi que ce soit. Mais tu dis si t'as des parties sur lesquelles, surtout des parties mécaniques sur lesquelles tu as un quota sur lequel tu puisses changer. Tu puisses changer cet élément sans encourir une pénalité derrière, sauf si tu dépasses ce nombre. C'est là où je me dis, ça devrait être mis en place. Le fait de
non mais ça on est d'accord.
On est d'accord.
Mais si moi je parle du système de pénalité actuel, sincèrement, dans le vocabulaire que tu utilises, d'un côté t'es pour le quota, mais en même temps on sent derrière que les pénalités telles qu'elles sont actuellement, tu n'es pas d'accord avec elles parce que tu trouves ça injuste.
J'ai eu
le même débat cette semaine. C'est pas trop sur le quota, on est bien d'accord, et moi aussi je trouve ça injuste pour un pilote qui recule de 5 places sur la grille. Maintenant, le règlement, il est fait comme ça, et ça me semble normal qu'un pilote qui ne respecte pas certains critères techniques et qui est obligé de changer, soit pénalisé. Après, que ce soit sous forme de quota ou d'autres, moi je trouve que le quota a ses avantages et ses inconvénients, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais sur la pénalité de 5 places, moi sincèrement, aujourd'hui, à part dire que ça serait mieux d'avoir un quota, je vois pas ce qu'on peut reprocher d'autre à ce type de pénalité, qui reste, malgré tout, je tiens quand même à le dire, relativement soft au regard de ce qui peut se faire dans d'autres compétitions. J'ai donné des exemples. En NASCAR, il y a un mec il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Dale Earnhardt Jr., qui a fait une pole, il change de moteur, il part en dernière place. En NASCAR, c'est la 43e place. Au Mans, un mec qui change de moteur, enfin, c'est Pescarolo, je crois, qui a changé de moteur, qui est obligé de partir un tour après tout le monde en début de course. Enfin, je crois quand même que la Formule 1, dans ses pénalités, reste quand même relativement souple.
Je sais pas, moi j'aurais vu d'autres méthodes, mais après.
Mais quoi concrètement comme autre méthode?
Moi c'est...
À part le quota, où là on est d'accord sur le quota.
Non, ce que je veux dire sur la méthode de pénalité, si tu veux mettre une pénalité en place, moi ce que je veux dire c'est... Certains ont peut-être hurlé, mais moi j'aurais plus vu un système de 1 point ou 1 demi-point sur le championnat. Par rapport à...
C'est pareil, c'est tout aussi injuste, ouais, l'injustice elle est la même.
L'injustice tombe sur les faits de ceux qui sont en bas de classement. Mais ceux qui ils sont à la base en pas de classement, ils vont pas jouer s'amuser à jouer le titre ou sinon au championnat constructeur ou autre. Mais C'est l'implication que le pilote en lui-même soit pénalisé, qu'on lui mette un boulet au pied à la prochaine.
Mais
la
c'est exactement pareil. Tu lui retires un ou deux points. Tu pénalises qui? Tu pénalises le pilote.
Oui, non, mais il peut le regagner plus facilement. Quand t'as une voiture performante.
Bah non, deux points perdus, c'est deux points perdus. Alors que cinq places perdues sur la grille, bah les places, tu peux les regagner.
Tu peux.
Puisque ton résultat, il est pas encore fait.
Je sais pas. Sincèrement, ouais, tu vois, c'est un système que j'apprécie pas. J'ai pas connu quand j'ai vu ça arriver, se mettre en place. Soit on respecte un règlement, mais justement la casse mécanique ou c'est quelque chose qui arrive en, comment dire, dans tous les sports automobiles, et ça arrivait tout le temps. Je voyais pas le fait de réglementer.
C'est pénalisé de la même manière dans tous les sports automobiles.
Ouais, je sais, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas.
Ouais, mais non, mais après, je suis bien d'accord, mais il y a aussi derrière ces pénalités, il y a aussi un impératif
de réduction de coûts
qui est aussi demandé de la part des équipes de réduction de coûts. Ce qui m'étonne toujours un peu, c'est que nous on critique ces pénalités, alors que dans les équipes, personne n'est critique. Il y a depuis que ça a été instauré, personne ne les a jamais critiqués, parce qu'ils savent ils savent très bien que c'est entre guillemets aujourd'hui le meilleur compromis pour à la fois limiter les coûts, tout en ayant aussi une marge de progrès technique, parce que ça reste quand même un progrès technique. Il y a quelques années, les gens disaient oh, il va falloir tenir 4 grands prix avec un seul moteur. Oui, en même temps, aujourd'hui vous le faites, quoi. Donc c'est à l'époque vous alarmiez pour rien.
Non. Alors messieurs, par rapport au sondage, que voulez-vous proposer? Les actus, les autres actus
Bah le truc c'est que les actus, j'ai peur qu'il y en ait une qui gagne, quoi.
Il y a quoi? Oui. Non, c'est l'intox média. Non, je sais pas. Tu vois quelle actu?
Ça va être Weber qui va gagner.
Weber ou Maria de Villota, si ça refait.
Maria de Villota, c'est juste une suite.
Oui.
Mais c'est pas une grosse actu.
Moi je vois bien que Vitesse Belge qui vote pour Spa, moi.
Ah ouais, moi j'aurais plus vu que ça.
Toi tu vois Ben voter qu'un seul.
On peut poser l'actu dans tout le monde. Se fout, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4.
Moi j'aurais voté Spa, hein. C'est direct, hein.
En fait, c'est intéressant parce qu'on a des visions différentes, donc du coup, c'est ce qui rend ce sondage intéressant.
D'accord. Ouais, donc, on va vous proposer les actus principales. Donc, vous aurez le choix entre Marussia exclut toute défaillance dans l'accident de Maria de Villota, Weber renouvelé chez Red Bull, FIA vers une révision du système de pénalité, Ecclestone à 100% sérieux pour le Grand Prix de Londres, ou bien reconduction, Spa pour 3 ans et Singapour peut-être pour 5 ans. Si vous n'avez pas déjà voté, il faut d'abord se rendre sur le site fanf1.com sur l'article consacré au SAV, le mag. Hein. Normalement, c'est juste en dessous. Il n'y a plus qu'à voter.
Mais si je dis, à votre avis, si je déclare laquelle j'avais proposé, j'arrive dernier ou...
Mais t'en as proposé plusieurs.
Mais voilà, de toute façon, automatiquement, j'en ai proposé. Oui. C'était lesquels les deux tiennes?
Ouais, Atox, Media, Singapour et Bernie.
Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as vraiment des goûts de merde, en fait. Toi, on te demande quelles sont les actus les plus importantes. Weber, ça ne saute pas à l'esprit, quoi. Tu dis non. Weber, j'y crois pas. Weber, c'est pas important. Oui,
ben non, j'étais convaincu. Par rapport à la dernière conversation qu'on avait eue, j'étais convaincu que Weber restait chez Red Bull. Voilà, donc j'ai pas prêté plus attention que ça, j'étais sûr qu'elle restait comme
non,
toi.
Mais au début de saison, ces mecs-là vont engueuler parce que je mettais pas des actus parce qu'on en avait déjà parlé. Et aujourd'hui, ils le font.
Par rapport aux actus dont tout le monde se fout, quelle est l'actu dont vous vous foutez le plus?
Ah, la première de Ben, là, c'était quoi?
Alain Prost estime que McLaren doit réagir dès Hockenheim.
Ouais.
C'est quoi les mots?
Avec ça, avec Weber. Weber et ça.
Oui. Ça.
C'est les deux.
Ah non, elle compte pas, celle de Weber. Celle de Weber, elle fait partie de celle qui compte.
Bah oui, je sais.
C'est intéressante.
C'est celle dont je me foutais le plus.
C'est moi qui ai un bug, soit c'est toi qui ai un bug.
Oui, je viens de voir, oui.
Alors, moi, je dirais, Suzuki, qu'il y a vraiment une actu qui fait bien chier. J'hésite entre Massa aidé par un petit collègue.
Mais c'est très orienté comme liste, hein.
Oui, il y a les autres, hein, ils sont juste en dessous, déconnez pas.
Non, parce qu'il faut vous dire que donc Shiji nous envoie ça par écrit et qu'il y a à peu près en 3 exemplaires chaque fois Massa aidé par un psychologue et Toast impressionné par un tiers. Donc du coup, on a une belle liste où on a vraiment le choix de la clé.
Donc moi, attendez, moi Senna récompensé en Italie, parce qu'on l'a déjà dit, on en avait déjà parlé.
Ouais, je suis d'accord, Senna.
C'est vrai que Senna aussi, c'est pas mal. Ouais.
Maman, ils sont méchants avec moi, les messieurs.
Mais bon, j'ai montré que je m'en foutais pas, en fait. Que, voilà, même si ça m'intéresse négativement, mais... Moi, je dirais... vraiment, l'actu dont je me fous... parce que c'est pas en soi une actu, c'est en direct de Silverstone avec Gilles Bianchi.
Oui, non, mais je l'ai mis juste pour...
L'interview est passionnante, mais en soi, c'est pas une actu.
Oui, non, mais bien sûr. Je l'ai mis parce que j'avais rien d'autre à mettre. Hein.
Moi, c'est... Ouais, Alain Prost estime que McLaren doit agir de Hockenheim.
Ok.
C'était tellement une lapalissade que ouais, c'est obligé.
Dans ce cas-là, on va passer aux citations. Avez-vous des citations? J'espère.
Moi, j'en ai une.
Moi, j'en ai une.
Moi aussi.
Mais ça va être
allez, peut-être là. Je me lance.
Non, j'ai dit le premier, moi.
Ouais, rien à foutre. Je me lance.
Oh, monsieur, je me lance.
C'est incroyable. Je me souviens en effet de mon premier Grand Prix comme si c'était hier.
Ah oui.
Oui.
Bah, c'était hier.
Bah, presque. C'est Lewis Hamilton. Parce que Hamilton et Kovalainen, ah, oui, qui ont commencé quand même en même temps, hein, ils vont fêter leur 100e Grand Prix. Hein. Il faut savoir que c'est quand même un club plutôt fermé, hein, parce qu'il n'y a qu'une 60aine de pilotes qui ont atteint ce chiffre, hein, dans toute l'histoire de la F1. Donc voilà, c'était pour célébrer ce centenaire. Comment ça se fait vieux?
Ouais.
Bon, ils n'ont pas eu la même carrière, ils n'ont pas eu les mêmes résultats.
Mais d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a dit que quand il allait négocier son contrat, oui, il ouais, faut que je réfléchisse bien, parce que je suis plus tout jeune. Attends, t'as mon âge? Calme-toi, Lewis.
Alors t'imagines, Steph Corr?
Arrêtez.
il passe à rouler en ligier, quoi.
Ouais, qui veut continuer?
Moi, j'en ai une de Sébastien Vettel. Alors, c'est un portrait, je vous laisse deviner qui c'est. Il est franc et honnête, il vous le dit s'il a passé une mauvaise journée, point. Il est vrai, il n'est pas politique, il ne madigance jamais rien, s'il ne veut pas vous parler, il vous le dira et il ne tergiversera pas, il ne tourne jamais autour du pot.
C'est Kimi!
C'est Kimi!
Kimi,
avec qui apparemment il s'entend très
mais
bien.
Oui, parce qu'il faut rappeler que quand il était en WRC, Sébastien Vettel était quasiment le dernier, enfin le seul pilote, parce qu'ils sont voisins en Suisse, ils font du badminton ensemble!
Oui, voilà.
Non, mais.
Ils font des oreilles de lapin.
c'est un bon portrait. Steph, Gus?
Ouais, moi j'en avais un, tout le monde a des problèmes avec lui, c'est un pilote qui ne sait pas que nous risquons nos vies, qui n'a pas de respect du tout. Et c'était ouais pour revenir sur Sergio.
Ça, c'est un autre portrait. Là aussi, je crois.
Là, je crois que les gens...
Carticaillant.
Ah, c'était Sergio Pérez contre Pastor Maldonado, parce que moi, autant l'action de Maldonado sur Sergio Pérez, soit elle a été dangereuse et autant qu'il soit réprimandé, mais je dois avouer que la première sur Raikkonen, mais celle-là, le fait de le balancer à l'intérieur de la chicane, celle-là m'a limite fait plus peur, quoi. Parce que j'ai vraiment eu la crainte que lorsque Kimi allait reprendre sur la piste, de se retrouver avec, les roues étaient tellement chargées de flotte et de se retrouver en aquaplaning ou sinon de se retrouver avec une casquette de l'arrière. Et j'ai vraiment eu une grosse, grosse peur. Et je croyais que déjà à ce moment-là, Maldonado allait se faire sanctionner. Et vraiment, ouais, je pense que va falloir qu'à un moment ou à un autre, on le calme réellement, parce que même au vu des déclarations de Maldonado qui arrête pas d'éclater, qui ne changera pas, qui restera tel que, on a réussi à changer un petit peu Lewis, un petit peu, mais il va falloir vraiment s'occuper à un moment ou à un autre du cas Maldonado, parce qu'avant la fin de la saison, ça peut être assez méchant, quoi.
Je consens,
oui.
Ouais. Bah, c'est un petit peu c'est consensuel, mais bon. Je dois dire qu'il m'a mis la rage.
Non, je pense que les fans de Maldonado ont envie de te tuer actuellement, mais...
Faut déjà les trouver.
D'ailleurs, Maldonado lui-même a envie de te tuer, d'ailleurs, méfie-toi sur la route, on sait jamais, il suffit que Maldonado soit derrière toi.
Oui.
La vache.
Ou Hugo Chavez, ils mettent les services secrets vénézuéliens sur le coup.
Ça se trouve, on est écouté, à la vache.
Eh oui.
J'assume, tant pis. J'ai une bonne assurance vie, ça ira, mais bon.
Eh, de toute façon, on est au courant des risques, on le Chavez. Allez,
ne courage pas.
Vas-y.
Alors, ma citation, en fait, vous en avez déjà parlé la semaine dernière, mais je voulais réagir. C'est la citation de Gaëtan Vigneron de la RTBF qui disait que je n'entende pas un Anglais me dire que Silverstone est le meilleur circuit du monde.
Ah oui.
Alors, on peut être d'accord avec lui. En fait, moi, le truc sur lequel je voudrais revenir, c'est quand même l'attaque pendant 5 minutes d'affilée à l'antenne de notre trio infernal de TF1 sur Silverstone, qui osait comparer Silverstone et Manicourt. Moi, je suis désolé. Silverstone, faut voir le public qu'il y avait, le nombre de gens qui, malgré la pluie, étaient là.
Et le circuit.
Hein ?
Et le circuit.
Oui, et le circuit. Mais... Le circuit, c'est pas le même. Les gens, donc, effectivement, sont pas les mêmes. Il y avait 127 000 personnes le dimanche et plus de 300 000 sur le week-end. Je suis désolé, moi, j'ai été une fois à Manicourt. On était 60 000 clampins. Et parmi ces 60 000 clampins, il y avait au moins 5 000 personnes de Renault et de Total. Comparer la France avec l'Angleterre sur le niveau du sport automobile, je trouve ça un peu exagéré. Parce que voilà, enfin dire que oui, on a mis l'autoroute et le Manicourt et Silverstone, les accès sont pas terribles, mais l'autoroute, il a fallu quand même 15 ans pour la construire. Enfin voilà, c'est l'attaque de TF1 sur Silverstone que j'aimais pas trop. J'arrive plus trop à me, enfin voilà, j'aimais pas trop ça.
Bah disons que c'est vrai que là où, enfin heureusement que c'est pas à cause de leurs accès qu'on supprime le Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que derrière il y a le public, il y a le circuit qui reste quand même exceptionnel, voilà, il y a l'organisation qui fait quand même du bon boulot, les VIP sont bien invités et tout, voilà, tout le monde se plaît là-bas. Alors que c'est vrai que dans le Grand Prix de France, c'est sûr que si tu dis le Grand Prix de France, je suis le premier à le dire, le Grand Prix de France, il y a quand même des accès et compagnie, c'est plus accessible. Maintenant, c'est pas non plus le seul critère qui doit rentrer en ligne de compte.
Ouais.
Du coup, voilà, c'est faut pas mettre les deux choses sur la même échelle. Tu fais volontairement 6 heures de bouchon pour aller à Silverstone.
Oui.
Je suis pas sûr qu'on fasse 6 pour aller Manicourt.
Voilà, mais c'était cette attitude un peu supérieure qu'ils ont eu pendant leur discours en comparant les deux que j'ai pas aimé du tout, donc je voulais le souligner.
Eh bien, dis-nous, on va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Et avons-nous des messages sur le répondeur ?
Alors oui, Shinji, nous avons plein de messages. Je vais commencer par le message d'Adela.
Un habitué ?
Ma question est toute simple et s'inspire du vendredi 13 juillet qui approche. Pourquoi n'y a-t-il pas de pilote qui porte le numéro 13 ? À la prochaine. Il a déjà prévu de nous reposer une question. Est-ce que quelqu'un par hasard a préparé cette question ?
Non, enfin...
J'ai fait l'historique du numéro 13, parce que contrairement à l'idée reçue, il y a quand même eu des engagements avec le numéro 13.
Il y a eu quelques cas, ouais.
Ouais. Bah, pourquoi il n'y a pas de pilote avec le numéro 13 ? C'est très simple, c'est juste par simple superstition.
Eh ben non.
Non ?
Ah
bah, tu as soufflé, alors.
Toi aussi, tu n'as pas lu ce merveilleux article qu'il y avait sur fanf1.com, rédigé par un auteur illustre, que dis-je ? Un génie d'écriture.
Oui, bon, par toi, quoi, ça va.
Oui, merci.
Voilà. Et donc, humblement, je trouve que c'était l'occasion, hein, tu compléteras peut-être après, si tu veux, mais je trouve que c'était l'occasion pour moi de vous offrir ce grand moment. Je vais vous faire une lecture.
Bon, après.
Comme les grands artistes.
Il faudra
vous faire une lecture.
Il faudra que tu nous mettes un jingle.
Non, mais sinon, t'as raison, c'est
la superstition. Il y a quand même une part de superstition, voilà.
Je commence la lecture. Attention, Adolin, assieds-toi dans ton fauteuil. Mets tes écouteurs bien au chaud sur tes oreilles. Regarde le ciel étoilé, s'il y a des étoiles chez toi. Regarde les feuilles s'agiter dans les arbres. Ferme les yeux et écoute ma douce voix. D'année en année, la liste des pilotes engagés au championnat du monde ne cesse de jouer avec la logique des nombres en passant du numéro 12 au numéro 14. Pourtant, pendant les trois premières décennies de l'histoire du sport automobile, le numéro 13 a de maintes fois été porté par des pilotes avec des fortunes diverses, certes, mais sans pour autant mériter... Je change de page. Je débute dans la lecture. Sans pour autant mériter le moindre bannissement. Il faudra pour cela attendre le Grand Prix de San Sébastien 1925, lors duquel la Delage numéro 13 du français Paul Torchi s'écrasa contre un arbre, alors que la course ne comptait que 13 participants. Quelques mois plus tard, à l'occasion de la Targa Florio 1926, parce que 1926 c'est 2 x 13, au départ de laquelle le comte Giulio Massetti s'alignait à bord d'une Delage marquée du numéro 13, le sort s'acharna une seconde fois, lorsque la voiture de l'Italien sortit de la route et se retourna sur elle-même en écrasant le malheureux pilote. Après ces deux tragédies consécutives sur une voiture portant le numéro 13, l'Automobile Club de France décida de ne plus l'utiliser. C'est donc par tradition et superstition que ce numéro n'est plus attribué en Formule 1, même si rien n'empêche un pilote de le demander. Ainsi, trois pilotes l'ont-ils porté en Formule 1, à commencer par Moritz von Strachwitz qui, malheureusement, ne put participer au Grand Prix d'Allemagne 1953 suite à la suspension de sa licence après un accident de la route. Le Mexicain Moisés Solana allait être bien plus chanceux, en participant à son premier Grand Prix au Mexique en 1963 avec le numéro 13 collé sur la carrosserie de sa BRM de la Scuderia Centro Sud. Malgré tout, ce numéro n'allait pas lui porter bonheur puisque, qualifié 11e, il termina la course en 11e position, à 8 tours du grand Jim Clark, après avoir souffert de problèmes moteurs. Davina Galica fut la dernière à tenter l'aventure avec le numéro 13 en Formule 1.
C'est divin.
Elle aussi dès ses débuts, en 1976, pour son Grand Prix national en Grande-Bretagne, où elle échoua à se qualifier, tout comme sa consœur, Leila Lombardi. Toujours est-il que, sur plus d'une centaine de pilotes décédés en compétition automobile, toutes catégories confondues, le sort ne semble s'être abattu qu'à 5 reprises, le 13 du mois, ce qui reste par exemple bien en dessous du 1er août et du 11 juin, souvent marqué par des événements tragiques en sport automobile, à commencer par l'horrible crash du Mans 1955. Mais deux de ces 5 pilotes qui sont morts l'ont été en Formule 1. Le dimanche 13 juin 1982, Ricardo Paletti, auteur de 8 départs en Formule 1, décède en course au Grand Prix du Canada, un mois à peine après le décès tragique de Gilles Villeneuve. Harry Schell, quant à lui, est mort il y a tout juste 51 ans, le 13 mai 1960, tu corrigeras toi-même la date, c'était un vendredi. Le pilote américain participait alors aux essais de l'International Trophy, disputé à Silverstone, mais qui ne comptait pas pour le championnat du monde de Formule 1. Sa Cooper sortit de la route dans le virage d'Abbey et glissa à près de 160 km par heure dans la boue avant d'heurter une barrière de sécurité, provoquant l'effondrement d'un mur de briques. Cela semble malgré tout être le seul mort qu'il y ait eu en sport automobile, un vendredi 13. Il faut donc songer à toutes ces fois où le nombre 13 ne s'est pas révélé annonciateur d'aucun malheur, et où bien au contraire il fit parfois le bonheur de certains. Mais pour en savoir plus, je t'invite, Adelin, à lire ce merveilleux article que tu trouveras sur fanf1.com et qui s'intitule « Vendredi 13 et superstition en Formule 1 ». Voilà, messieurs. Allô ?
Non, c'est rien, on fait une minute de silence parce qu'il faut contrebalancer un peu.
Oui.
Trouve un certain équilibre.
Bande d'enfoirés.
Ouais, donc au final...
la superstition.
Voilà. Non, c'est pas de la superstition. C'est que, voilà, il y a sans doute de la superstition derrière, mais il y a vraiment quelque chose derrière, une raison qui est pas juste, oh, on prend pas le numéro 13 parce qu'on a tous peur du 13.
On dit que, enfin, le 13 ne serait attribué en F1 qu'avec l'accord de tous les pilotes. Est-ce que dans, notamment les 3 cas, ça a été, c'est vrai ou c'est une légende urbaine?
Mais alors, je sais que dans les cas précédents, c'est parce que les numéros étaient attribués par l'organisation. Mmh. Et donc, soit le pilote le demandait, soit l'organisation l'accordait, et ça restait globalement à la discrétion de l'organisation.
Ah, et donc c'est une règle en fait, mais
donc, après voilà, ça dépend.
Été appliqué en tout cas en F1 finalement.
Bah non.
Mmh. Mais ça reste une règle tacite quoi. C'est oui. Pas une. Ouais, voilà, ouais.
Alors dans le même genre, en effet, en complément, parce que 13 c'est culturel par une autre culture, on peut imaginer par exemple qu'on ne verra jamais un pilote japonais, chinois ou coréen avec le numéro 4.
Le numéro 4.
Non. Voilà, parce que là-bas c'est le 4 qui porte malheur, puisque dans ces langues en fait le chiffre 4 se prononce de la plus ou moins de la même façon que le mot mort. Et donc comme le 13 chez nous, le 4 porte malheur, donc il n'y a pas de quatrième étage par exemple. Et donc on peut imaginer que des pilotes de ces contrées-là ne prendraient pas le numéro 4.
C'est pour ça que c'est vraiment un usage. Quand je dis que c'est pas qu'une superstition, c'est certes une superstition, mais c'est aussi un usage, voilà, dû à aux organisateurs des courses et compagnie.
Oui, et puis souvent les organisateurs des courses, ils attribuaient que des numéros pairs. Quand tu regardes sur StatF1 par exemple, sous la liste des engagés, c'est souvent 0, 2, 4, 6, 8 et pas de numéro impair. C'est arrivé à plusieurs fois, dépendamment des organisateurs.
Dino, avons-nous d'autres questions au répondeur ?
Oui, elle a des questions plutôt débat.
Ah.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme question débat ? Une première question de Kevin. Salut à toute l'équipe tout d'abord. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous que la hiérarchie totalement anarchique de cette saison est bénéfique à l'image de la Formule 1 ? Ou au contraire, pensez-vous que les gens préfèrent voir une hiérarchie plus stable ?
Déjà, faudrait être d'accord avec hiérarchie anarchique. C'est peut-être un peu fort.
Je te rejoins aussi, ouais, parce que on voit que ça reste quand même les top teams qui restent.
Comme on disait, même en début de saison, c'est que ça, à part finalement Rosberg et Maldonado, voilà, c'est quand même des top pilotes qui ont gagné. Ça reste quand même les grosses équipes qui sont devant. Là, on commence à voir une hiérarchie se développer. C'est plutôt le fait, hiérarchie anarchique. Je pense peut-être plus précisément le fait qu'il y ait eu toutes ces victoires alternantes, le fait qu'il n'y ait pas eu une hiérarchie fixe.
Qu'il y a eu des coups d'éclat.
Voilà. Je sais pas. Ça dépend aussi comment on voit la F1, j'ai envie de dire, il y a sans doute autant de personnes qui sont mécontentes que de personnes qui sont contentes. Ça dépend vraiment comment on le voit.
C'est le résultat qui donnera sa crédibilité au championnat.
Bah, et en même temps,
Je crois pas qu'il y ait eu de résultats qui étaient volés, de toute façon.
Non, mais voilà.
Non,
mais
non, ça, non.
Même, je dirais, c'est le résultat final. D'abord, bon, c'est vrai qu'on peut parler, par exemple, du cas de Maldonado, qui est la seule victoire vraiment insolite de cette saison. Mm. Alors, on pourrait aussi parler de celle de Alonso, qui, elle, pour le coup, est vraiment insolite, mais qui s'explique par les conditions en Malaisie. Mais vraiment, celle qui dénote dans le paysage, ouais, c'est celle de Maldonado. Mais en même temps, quand on a regardé le week-end, enfin, la victoire de Maldonado, elle est complètement normale, logique. Voilà, il y a aucun vol, il y a aucun scandale. Elle est parfaitement méritée. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Je pense que c'est surtout le résultat qui va faire que ça nous semblera positif.
J'ai pas l'impression, par exemple, que pour le grand public, donc les gens qui ne s'intéressent pas spécialement beaucoup à la F1, ça change grand-chose.
Bah, moi, je vois, c'est c'est l'apparition de Grosjean qui commence à faire bouger un petit peu les lignes pour certaines personnes. Donc, ouais, sa présence, bah, on peut, ouais, la trouver un petit peu étonnante pour un pilote sur une première saison complète. Mais ça fait bouger. Et en même temps, comment dire, l'anarchie, je dirais, c'est plus dans les courses en elles-mêmes, sur le fait qu'on est tellement habitué à avoir une hiérarchie comment dire, quasiment de la deuxième ou troisième course qui s'établit au sein des teams, que le fait d'avoir simplement de la compétitivité, d'avoir une compétition au sein d'un championnat, ça paraît étonnant.
Alors que on a eu beaucoup de questionnements de la part de personnes qui ont fait de la F1, qui ont dit justement, est-ce que fallait pas arrêter, enfin pas qu'il fallait l'arrêter, mais qui disaient que peut-être ça pouvait être négatif.
Mais je pense qu'il y a deux extrêmes, c'est-à-dire que je pense que il y a l'extrême de l'année dernière où on a un pilote qui domine et que ça, pour l'image de la Formule 1, c'est pas nécessairement bon. Et il y a l'autre extrême, c'est l'excès de surprise. On peut prendre le cas, par exemple, de Brown, de 2009.
La situation parfaite, c'est 2010. T'as 4-5 pilotes, c'est toujours les mêmes. Et en même temps, il y a de la, voilà, c'est disputé jusqu'à la fin. Ça, c'est la situation parfaite.
Cette année, on s'est un peu monté le bourrichon parce qu'il y avait beaucoup de vainqueurs différents et que c'est vrai que les pneus rendent les courses vraiment dramatiques, les écarts sont très serrés. On voit aussi que une écurie qui est bonne en début de saison peut l'être moins en milieu de saison. Donc voilà, parce que les écarts sont serrés et que la moindre évolution, et dès le départ, ça, tout le monde l'a dit, enfin dès le début de saison, toutes les écuries disaient ça va jouer sur l'évolution, ça jouera sur le détail, et on le voit effectivement. Il suffit de quelques évolutions bien placées et ta voiture, elle repart. Après, je pense que les gens, ils ont malgré tout besoin d'une situation normale, et que finalement, cette saison, la situation est pas si anormale que ça. On retrouve des écuries qui sonnent course dans l'esprit des gens, du grand public, McLaren, Red Bull, Ferrari, Williams, ça reste malgré tout un nom que les gens connaissent et compagnie, Mercedes aussi. Donc voilà, il y a rien d'anormal aujourd'hui. On n'a pas eu des victoires de HRT ou Caterham, voilà, des trucs qu'on comprendrait pas, vraiment des effondrements de pneus en cascade. Il y a eu quelques cas. Maintenant, ça reste pas suffisant, je pense, pour décrédibiliser le sport.
Non, et je pense aussi que la chose à faire attention, c'est comme là, on voit une petite domination entre guillemets, mais de réussir à se placer à chaque fois d'Alonso, c'est de pas essayer, comment dire, de la jouer comme ils l'ont indiqué durant un moment, qu'ils voulaient essayer de la jouer un petit peu épicier. Parce que on oublie très rapidement que même dans une saison, on a tendance à oublier le début de saison après la trêve. On a quand même un oubli qui va se faire sur les bons résultats d'un tel ou d'un tel. Et s'ils ont le choix de jouer l'épicier, de se dire voilà, on va essayer de jouer sur les points, ça peut être une image négative qui apparaît aussi pour la F1. Le fait qu'il ait même gagné que quelques courses, faut vraiment réussir à gérer que, pas qu'il y ait une domination, mais que sur cette fin de saison, que quand même le pilote qui sera champion du monde ait réussi au moins à s'imposer ou à vraiment se placer très très régulièrement sur le podium.
Mais de toute façon, les écarts sont pas assez importants pour jouer l'épicier. Oui. 13 points en deux courses, tu fais deux fois deuxième et c'est toujours le même pilote qui gagne et tu les as perdus, quoi. C'est ouf.
C'est ce qu'a dit Christian Horner, hein. Il a dit, pour le moment, Lando, il a pas eu de problème. Il suffit juste qu'il connaisse un week-end sans qu'il fasse un abandon, il prend 25 points dans la bulle sur les mecs qui sont devant. Si les mecs qui sont devant, c'est Hamilton ou Vettel, les mecs ils reviennent et ça redevient serré en tête, quoi. Donc, mais sur la crédibilité, je pense sincèrement que vaut mieux avoir des problèmes de riches comme ça, d'avoir une saison qui est disputée, compagnie, avec une hiérarchie qui peut parfois paraître un peu insolite. Mais encore une fois, je pense qu'elle paraît insolite pour nous, mais pas vraiment pour le téléspectateur lambda qui regarde la F1 sans forcément se renseigner.
Je viens de regarder un truc. Tu sais, vous savez quand c'est la dernière fois qu'Alonso n'a pas marqué de points? C'est au Canada, l'an dernier.
Ah là. Ok.
Quand même.
Ah, il y a de la régularité. Ah
ouais, il a le droit d'avoir de l'espoir, Christian Horner.
Non, mais moi, en tout cas, je sais que pour ma part, ça me plaît vraiment, ce championnat, même, on va dire, incertain ou autre, ça me plaît vraiment.
Globalement, ouais, j'ai pas,
moi, j'aime.
J'ai pas l'impression, en effet, c'est, franchement, se plaindre, cette année, c'est du problème de riche.
Ah oui.
Mais voilà, c'est ça,
on s'est plein de saisons qui étaient archi dominées. Comment on peut se plaindre cette année? Mais voilà.
Ouais, je dirais que, quitte à être décrédibilisé, autant être décrédibilisé comme ça, plutôt que d'avoir des polémiques sur l'espionnage ou sur un pilote qui se cartonne, volontairement pour faire gagner son coéquipier, ou alors un mec qui a des propos pro-nazis, ou qui, a des tripes nazis, ou alors même, on peut revenir à 2009.
Les discussions techniques. Bon, il y a eu des trucs sur les trous, sur les trous dans les planchers et tout ça. Cette année, on a quand même plutôt été épargné pour l'instant.
Voilà. On peut même revenir à 2009.
Il y a eu des discussions avec des clarifications. Mais voilà, ça n'a pas non plus été, bon, il y a aussi eu des trucs avec, finalement le système de Mercedes, et encore, on voit que ça n'a pas non plus changé, grand chose finalement. Là aussi, de ce point de vue-là, vraiment, il y a de quoi apprécier cette saison.
Après, tu sais, t'as toujours les cartésiens fans qui aiment que t'aies une hiérarchie qui se dessine, que t'aies une irrégularité, que
t'aies
des choses qui s'imposent. Souvent,
quand tu te plains qu'il y ait une hiérarchie, c'est parce que souvent tu veux que la hiérarchie soit dans un certain sens, et souvent pour le pilote que tu supportes. Voilà.
J'avouerais que là, je trouve que la hiérarchie est pas mal.
Voilà.
Il y a peut-être un petit truc à peaufiner, mais...
Bah, c'est pour ça que je suis un peu mécontent sur les boîtes, tu vois.
Non, mais je pense qu'il y a aussi besoin de repères, et que les gens, fans ou pas fans, ont besoin de certains repères. Et je prendrai en exemple la saison 2009. La saison 2009, pour la crédibilité de la F1, peut-être jouer davantage sur la crédibilité ou la décrédibilisation de la F1 que ce championnat-là, puisque on a vraiment là en 2009 deux équipes qui viennent un peu de nulle part, hein, faut être honnête. Enfin, si t'es pas renseigné sur la F1, que tu sais pas que Barça et Honda, qu'ils ont dépensé plein de pognon, et Red Bull, c'est Adrian Newey qui est un génie de l'automobile. Voilà, si tu sais pas ça, ces deux équipes qui viennent de nulle part, je pense que là, pour le coup, ça peut peut-être davantage, d'un point de vue sportif, décrédibiliser le sport, que de voir cette année une hiérarchie qui est certes un peu fluctuante et un peu insolite par moment, mais il y a quand même des lignes directrices qui restent les mêmes, il y a quand même des équipes qui sont devant.
Et puis même 2009, ça a peut-être eu un mauvais impact, mais sur le grand public et pas sur les fans, parce que...
Oui, voilà, non, mais c'est ça que je dis, c'est qu'après, voilà, c'est... Si vraiment faut chercher un truc qui décrédibilise, c'est certainement pas dans la saison 2012 qu'il faut regarder. Quoi.
Ouais. Mais non, moi 2009 justement, moi je trouve, je sais pas, dans mon entourage, ça intéressait les gens de voir une autre équipe autre que McLaren, que Ferrari et autres.
Non, mais je parle pas d'intérêt, je parle de crédibilité.
Ah, oui.
Et je compare par rapport à la saison 2012. Mmh. Je suis pas en train de dire que la saison 2009 elle est pas crédible. Hein. J'ai juste, si on doit comparer en crédibilité sportive, aux yeux notamment peut-être du grand public, voir tout d'un coup triompher, parce que c'est ce qu'elles ont fait au début de saison. Des équipes comme Brown et Red Bull qui viennent d'un peu nulle part, ça peut vraiment plus remettre en doute la crédibilité que de voir triompher Williams lors d'un grand prix.
Oui, typiquement, c'est quelqu'un qui vient de dire, qui sait que tu t'y connais en F1, qui vient de dire, qui vient de voir et qui te dit mais c'est qui, c'est Brown là, d'où ils sortent, d'où ils viennent, je comprends
pas.
Tout
à fait. D'autres questions, Dino?
Oui, une question de Giovanni. Giovanni qui nous dit, Giovanni avec un nom comme ça, forcément je t'adore, qui nous dit, une question un peu plus fun aux abords des transferts pour le championnat 2013. Tous les contrats sont renégociés. Si vous deviez refaire la liste des pilotes pour compléter les 24 places, des coéquipiers improbables à cause de tensions passées, de frictions, de caractères opposés, de différences de niveau qui exaspéraient un team, par exemple, Kartikeyan et Vettel chez Red Bull. Voilà. Faites-nous rire, Dino, Shinji, les chroniqueurs qui seront présents à ce mag, signé Giovanni.
Bah, Maldonado Hamilton, hein.
Oui,
Pérez.
Maldonado, oui, non, mais là, c'est sur le coup. Moi, je parle en général.
Maldonado Hamilton, c'est pas impossible puisque Frank Williams rêve d'avoir
Oui.
Massa Hamilton.
Ou un grand classique, Capitan Alonso.
Ouais.
Mais en fait, Alonso, j'aimerais le voir avec plein de pilotes. Hamilton, Alonso, Alonso Vettel, Alonso Schumacher, Alonso Weber, Alonso Rosberg, Alonso. J'aimerais voir une équipe Alonso.
Avec Isabelle Alonso.
Je suis en train de chercher avec qui on pourrait mettre Kimi, mais tu vois, pour faire une espèce d'équipe du mutisme.
Est-ce que...
Oh, Pérez, ces dernières... Dans les derniers communiqués, il faisait deux lignes.
Oui. Ah oui.
Non, Kimi, il faudrait le mettre...
Tu le mets tout seul.
Oui.
Non, tu le mets avec Yuji Ide parce qu'il savait pas parler anglais.
Oui. Ah, ça va pas.
Ah oui.
D'ailleurs, ils en prennent plein leur gueule, les pilotes japonais, non, sur Eurosport.
Oui.
Sincèrement, si vous êtes fan de pilotes japonais, n'allez pas lire la dernière chronique sur Eurosport sur les pilotes japonais. Surtout les fans de Kamui Kobayashi, parce qu'il en prend plein sa gueule, le pauvre.
L'assurance de Stéphane Vrignot, enfin voilà.
Ouais, parce qu'au final, t'as pas tant
d'années. C'est Rosberg. Ça.
Oui.
Les années 80.
Parce qu'autrement, il n'y a pas tellement d'animosité entre les pilotes, quoi. Ou sinon, ça se voit pas. Ils sont tellement lisses que désormais, tu vois pas les petites accroches. T'en vois un petit peu, mais bon.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un tirage au sort, tu sais. Pour voir. Alors, on tire au sort. Voilà. Qu'est-ce qui arrive?
Oh, c'est trop dommage, Alonso et Vettel vont chez HRT.
Oh, c'est pas mal. Tu sais, c'est pas con ça. Attends, est-ce que j'ai une feuille?
Maldonado chez Red Bull.
Attends, je vais trouver une feuille.
Mais non, voyons, tu mets Carty Kayan chez Red Bull.
Ah, ouais.
Bah, c'est ça l'idée, essayer d'équilibrer les carences des pilotes par leur monoplace. Genre, tu mets les 6 bons chez les trois écuries de 2010 et tu mets les autres sur le reste de la grille.
Non, on va faire coup du tirage au sort.
Voilà, on va faire un vrai tirage au sort, donc ça pourra pas être plus improbable.
Ouais.
Et donc, par la magie hein, du direct, tu me dis, on a déjà fait les petits papiers.
Bien sûr.
Allez, on est fort.
C'est nous qui avons fait tout le boulot. Attendez, vous avez exploité. On
c'est vrai.
Tout coupé, tout noté.
Donc, je dis de ton côté, toi, t'as les équipes.
J'ai les équipes. Moi, j'ai les bon. Donc, voilà. Quoi de plus improbable que le hasard? Ah, attends.
C'est unique, hein.
Attention. On remet encore un petit peu.
On commence par quoi, du coup? L'équipe et après l'équipe. On prend les deux pilotes.
L'équipe, voilà. Attention. Je touille.
Ou alors on tire les deux pilotes et
ah, ça pourrait être sympa de tirer les deux pilotes et ensuite de tirer l'équipe, ouais.
Comme vous voulez, j'ai pas encore ouvert donc.
Genre par exemple, tu vois, tu tires Alonso et Hamilton.
Et HRT.
Et à la fin, tu dis, ah, pourvu que ce soit McLaren.
Allez, on va faire comme ça.
Tu fais comme ça?
Ouais.
Ok, alors je tire le premier pilote. Et nous aurons Michael Schumacher.
Un bon début.
Avec. Alonso!
Oh!
Non, c'est truqué tout ça.
Ah non. Je jure, c'est pas truqué.
Vous aimeriez
pas président de la FIA par hasard?
Hein?
Ferrari, moi j'aimerais bien.
Pas Lotus, pas Lotus.
Ça bouge, Ferrari.
Pas Force India, j'aimerais bien.
Sauber.
Non!
De quoi?
C'est Ferrari!
C'est le. On a parlé du 13, on a conjuré le sort.
N'empêche quelle équipe!
Ah ouais.
Alonso, Schumi, Ferrari, waouh!
Oh, bof, franchement.
Non, Gus, s'il te plaît.
Non, mais, évidemment.
Même moi, j'admettrais que, ouais, ça, j'aimerais voir, quoi.
Alors, pilote suivant, c'est Sergio Perez.
Allez, mal de.
Avec Kovalainen.
Ouais.
Ouais,
c'est une équipe.
C'est sympa, quand même.
Ouais. Oui, c'est sympa, là, c'est une belle équipe. Et moi, j'aimerais bien voir chez Caterham. Pas Kovalainen, chez Caterham. Chez McLaren, tiens. Ou Mercedes, les qualités avec les pneus de Perez.
Sur la Mercedes.
Oh, merde.
Oh, les
pauvres. Ils vont chier.
Chance. Adieu la F1. Deux saisons et au revoir.
Allez, le suivant. Romain Grosjean. On pourrait mettre avec qui, ça, Romain?
Marie Angelès.
Ah, Nico Rosberg. Non, je déconne. Grosjean Weber.
Oh.
J'aurais pas imaginé cette équipe-là, ça peut être sympa.
Ouais, le vieux et le jeune. Et... Ouais, et... Non, il y a Mercedes. Côté paternel.
Chez Mercedes.
Ah.
Alors, retour de Weber chez Mercedes.
Oui.
Ah oui.
Il va encore s'envoyer en l'air.
Atterrissage chez Mercedes.
Alors, équipage suivant. Daniel et Ricciardo avec Petrov. C'est pareil, c'est l'équipe, ça ne dit rien du tout.
Improbable pour l'instant.
Ça sent le truc, tu vois, chez McLaren ou chez Red Bull. Sauber, oh ça va. C'est de la promotion pour les deux,
oui.
Ils ont la chance au tirage. Alors, ensuite, équipage suivant. Lewis Hamilton. Ah là, ça est sympa.
Qui
Alors là, si c'est Vettel, sincèrement.
Maldonado.
De la Rosa.
Oh, ouais. Oh putain, le grand écart. Oh, ouais.
Et ça, c'est fait HRT.
HRT.
Tu vois, je les appelle. Bien, ouais. Tu vois, moi, je dis, c'est une belle équipe. Moi, j'aime beaucoup.
Là, ouais.
Équipe suivante, Timo Glock. Ça sent donc qu'on va faire un équipage. Mmh. Avec Hülkenberg. Ah, duo d'allemand.
Ah, promo ou pas promo?
McLaren.
Caterham.
Ah, Thibaut Glock qui gagne. Alors, le suivant. Jenson Button. Vous aimeriez qui à côté de Jenson Button?
Cartier Kayan, les deux extrêmes, le beau gosse et Cartier Kayan.
Oh non, arrête!
Non, arrête! Tu vas encore niquer notre top 10!
Eh, mais c'est... L'équipe, la belle et la bête, quoi, je suis désolé.
Oh non, mais arrête, mais faites le taire! Coupe ton son!
C'est bien faire, ça!
Ah, mais... Et toi, Gus, tu verrais avec qui?
Moi, je verrais bien Raikkonen, je sais pas pourquoi.
Tu verrais un Button Raikkonen. Et toi, Shinji, tu verrais avec
ouais,
qui?
Ouais, un Raikkonen.
Eh ben, ce sera Vergne. Ah! Jens Button et Eric Vergne qui iront chez?
Chez Lotus.
Chez Lotus.
Ah, ouais, pas mal.
Ah, oh, ouais, c'est vrai, ouais, ça a de la gueule, c'est sympa.
Écurie suivante, Charles Pic avec. Ah! Charles Pic avec Kimi Raikkonen.
Un beau duo de chevelu.
Ah, ah ouais, là. Il va pas moucheter, petit, hein.
Ah, ça sera un retour chez McLaren.
Ah, non, chez McLaren.
Ouais. Ah ouais, là c'est dans l'extérieur.
Ah, il y a des liens. Hein. Équipe suivante, Britney. Enfin, Nico Rosberg pour les noms.
Et Red Bull n'est pas encore sorti. Hein.
Oh la vache.
Il va avoir la timbale. Hein.
Alors, on a un duo Nico Rosberg, Sébastien Vettel. Oh la vache. Et ça, alors.
Si Marussia n'est pas sorti.
Marussia, Red Bull. Yes. Force India, Williams, j'aimerais bien.
Marussia.
Ah, non, j'en retire au sort.
On a Hamilton chez HRT et Vettel chez Marussia. Oh,
c'est beau. Et Rosberg dans une écurie où il sera invisible, mais pour de bonnes raisons. Ensuite, avant-dernière équipe déjà. Ouh là là, dis donc.
Ah oui, déjà.
On aura déjà le plateau.
Paul Di Resta et Felipe Massa. Ça, c'est une équipe qui est pas trop mal, ça.
Donc, Williams ou Red Bull, du coup.
Williams ou Red Bull.
Ouais. Y'a pas eu Force India, déjà?
Ah, Red Bull.
Ouais, bravo, Felipe, champion du monde.
Ah, ils vont faire la tête, ouais.
Il reste deux.
Ah, tu me diras, avec Alonso chez Ferrari et Schumacher.
Ouais.
Il t'en reste deux, Shinji.
Oui, j'en ai deux.
Merde, j'ai oublié des pilotes. J'ai oublié qui?
Mais Force India et Williams.
T'as mis Carty.
Ah, j'ai oublié Maldonado et Senna.
Non.
J'ai oublié deux pilotes comme un con.
Qu'est-ce que c'est que
c'est fait, non?
Alors, je vais quand même le rajouter.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est Pipe, ils ont pas pu être dans les 10 autres écuries.
C'est pas grave, on s'en fout.
Avec un peu de chance, ils vont se retrouver chez Williams.
Bah c'est ça, c'est la beauté du sport.
T'as vraiment l'envers du décor des tirages au sort.
Vous voyez qu'on fait comment le tirage au sort du concours top opposition? C'est pareil.
Bien sûr.
Il y a 15 prises à chaque fois, messieurs. Alors, Kamui Kobayashi.
Globen. Ah non, mais Globen, il est même pas dans l'enveloppe. Ça il le
avec
dit pas.
Bruno Senna. Ah non, Globen, il est automatiquement retiré.
Kobayashi et Senna, hein.
Ouais.
Force India.
Et là, normalement, il reste Maldonado et il manque qui, je sais plus.
Carty.
Et Carty Kayan. Chez Williams, c'est ça?
Ouais. Bah, c'est logique, hein, en même temps, c'est deux valises. Donc...
Oui, voilà. Tu vois, finalement, le tirage au sort, il est bien fait, même s'il est faux.
Bon, d'accord, c'est foireux, mais bon.
Voilà. On pense, en tout cas, Giovanni, qu'on aura répondu entièrement à ta question.
Voilà.
Ouais, mais il y a eu des belles équipes, hein. Schumacher, Alonso, oui. C'est pas mal.
Ouais, il y a des trucs sympas, ouais. Puis Vettel et Hamilton en fond de peloton, c'est pas mal.
Ouais, ouais, ça peut
être. La bande plus chevelue chez McLaren,
Ah oui. Non, puis on doit aussi te dire, Giovanni, que grâce à toi, il y a eu un superbe moment qu'on n'a pas laissé dans l'émission, là, parce qu'il fallait quand même pas abuser. Mais que vous retrouverez, hein, dans un making of spécial sur le site du SAV de la F1, savf1.fr. Sincèrement, ne ratez pas ça, parce que vous allez vraiment vous marrer.
Moi, j'ai envie de dire, Steph, c'est vraiment la mascotte officielle du SAV.
Oui, mais il y a un truc avec toi.
C'est la mascotte.
Ah, bah,
avons-nous d'autres questions?
Alors, il y en a une dernière de Patou qui nous dit: salut à Dino, à Shinji et à leur chroniqueur. J'ai lu récemment que le président du CIO, Jacques Rogge, avait exclu toute participation de la Formule 1 au programme olympique, même s'il reconnaît que les pilotes sont très courageux. Il pense que les Jeux olympiques sont faits pour les athlètes et pas pour les machines. Qu'en pensez-vous?
Bah déjà, il y a une vraie question réglementaire, hein, qui fait qu'au jeu, il peut pas y avoir de sport motorisé. Ça,
oui.
Voilà.
Mais il peut y avoir Oscar Pistorius.
Oui, mais il est pas, il marche pas au sans-plomb, Oscar Pistorius.
Oui, d'accord, ok. Et rien n'en te dirait.
D'ailleurs, c'est dégueulasse parce qu'il fait les Jeux Olympiques et les Paralympiques.
Ouais, oui, voilà.
C'est-à-dire, qui te fait les Jeux Olympiques, il fait pas les Paralympiques. Mais non, il fait les deux.
Tu sais, moi, je trouve que personnellement, si on autorise les handicapés à participer aux Olympiques, on doit autoriser les valides à participer aux Paralympiques. Envoie Usain Bolt aux Paralympiques, les mecs, ils vont pas arriver. Ça se trouve hyper. Ah, là, là.
Non, après, c'est vrai qu'il y a aucun. Dans le cyclisme, c'est pareil, quoi. C'est juste mécanique, mais c'est quand même propulsion humaine. Non, non, moi, ça me dérange pas que la F1 ne soit pas.
Après, c'est des. Enfin,
le problème, c'est pas tant que ce soit. Excuse-moi. Non, le problème, c'est pas tant que ce soit un sport motorisé, mais c'est que le matériel soit pas le même pour tout le monde, parce que à partir du moment de ce moment, les athlètes ont pas forcément la même chance. Là, un GP ou le truc, là, les formules par nation, s'ils avaient perduré, ça aurait pu être des candidats, parce que le matériel était le même pour tout le monde, etc. Mais là, la F1 en tant que telle, c'est
puis
pas.
Faudrait les infrastructures. Et puis, est-ce que un sport comme la F1 a besoin de ça? De la même façon, par exemple, que le tournoi de football olympique, c'est fait pour les jeunes, parce que je veux dire, il y a la Coupe du Monde, il y a les coupes continentales. Les joueurs pros de foot ont pas besoin spécialement du tournoi olympique. Après, ouais. Pourquoi pas aussi imaginer si vraiment on devait faire quelque chose, pourquoi pas mettre des jeunes justement.
Shinji, si vraiment tu veux envoyer les jeunes pilotes genre GP2 et World Series by Renault aux Jeux Olympiques, autant directement les envoyer aux Paralympiques.
Non mais par exemple, pourquoi pas en karting, parce qu'il faut aussi les installations hein, pour faire un Grand Prix. Par exemple, le karting, ça. C'est déjà des installations plus petites, des jeunes, on pourrait mettre des véhicules communs à tous, voire même des véhicules électriques, puisqu'on sait que ça marche très bien sur le karting. Ça pourrait être une formule qui pourrait être intéressante pour les jeux.
Mais là où l'argument de Jack Rogg, je peux pas le soutenir moi, c'est justement comme tu prends l'exemple du cyclisme, Gus, mais dans le cyclisme, les vélos ne sont pas les mêmes. Alors c'est sûr, la force humaine est plus importante dans le cyclisme que dans la F1, mais sur le principe, ça reste quand même un athlète et une machine, et ils sont pas les mêmes. On peut aussi pousser même plus loin en disant que dans l'équitation, aucun cavalier ne dispose du même matériel, du même cheval. Non. Donc c'est là où.
Et en cyclisme, ils n'ont d'ailleurs pas tous les mêmes produits, puisque Frank Schleck quitte le Tour. Mais bon.
Oui, non, mais il quitte le Tour parce que il est en frisbee avec Radio-Shack.
Non, il quitte le Tour parce que c'est quelqu'un de heureux. Et les gens heureux, bien évidemment, sont positifs dans la vie.
Ah!
Mais après, enfin, moi, je te dis, pour moi, ce qui est peut-être le plus choquant, c'est que justement, par rapport à la médiatisation, à l'argent qui circule dans la F1 a pas besoin de ça. Voilà, tout simplement.
Oui, non, mais voilà, je pense que c'est ça. C'est là où, tout simplement, Rogue, je trouve l'argument, il est biaisé. C'est qu'il est sur un argument technique, réglementaire, sauf qu'on peut trouver des parades. C'est dire, voilà, tout simplement, mais est-ce que vraiment la F1 a besoin d'être dans les JO alors que c'est déjà le troisième sport, après le football et compagnie, le troisième sport en termes d'audience et de retombées économiques. Donc, voilà, est-ce que vraiment il y a cette nécessité-là derrière?
Si c'est vrai que la FIA a rejoint le giron des fédérations olympiques, c'est l'an dernier, je crois, c'est depuis l'an dernier, ce qui fait que notamment par rapport à certaines institutions ont dû être mis en place, notamment de représentativité des sportifs, hein, qui n'étaient pas forcément qui n'existaient pas, mais qui dans les critères olympiques doivent exister. Mais c'est pas.
Non, puis c'est bien, ça reconnaît la Formule 1 comme un sport. Digne d'être olympique.
Faut avouer que la FIA n'est pas en sport motorisé en général n'est pas précurseur puisque la FIM l'était déjà depuis longtemps.
Oui. Mais c'est. Bon voilà pour les questions, c'est tout.
On va rappeler, hein, si vous souhaitez poser des questions, bien évidemment, comme d'habitude, il faut envoyer vos mails à répondeur@savf1.fr.
Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans le SAV de la F1, on dit souvent des conneries.
Oui.
Ou alors, on en fait quelquefois, parfois. Et je vous avais parlé la semaine dernière du fait que je n'avais pas prévenu d'une question, Gus et Shinji, qui ont été un peu pris au dépourvu et qui ont peut-être livré une réponse incomplète.
Ah, mais j'ai moi, même c'était complètement incomplet et insoumis.
Je veux pas savoir, Shinji. La semaine dernière, j'ai apporté un complément qui était peut-être encore incomplet, donc nous, on veut vraiment être sérieux, être complet et tout, et on a fait venir exprès, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui. Je sais pas si tu nous entends, Steph Coeur?
Oui, de loin, oui, je suis là.
Bon. Donc, Maël, tu voulais une réponse de Steph Core. Eh ben, on te donne une réponse de Steph Core. C'était la question sur qu'est-ce que le double embrayage exactement.
Alors oui, bonjour Maël. Heureux de pouvoir compléter ta réponse et apporter quelques petites précisions. Le gros a été dit, que ce soit par Gus Gus ou Dino la semaine passée. Mais là, c'est plus pour parler de l'ensemble de la boîte. Alors, il faut savoir que le système de double embrayage, on parle de double embrayage, mais il comprend pas simplement que le système d'embrayage. Quand on parle du double embrayage, on essaie de comprendre la boîte. En fin de compte, c'est une boîte de vitesse qui a été étudiée à double embrayage par Porsche dans les années 80. Ça a été utilisé par Porsche et Audi en compétition. En fin de compte, la boîte en elle-même est composée de deux sous-boîtes et de deux embrayages réunis dans un même carter. Ce double embrayage permet d'enclencher à tour de rôle deux arbres indépendants afin de transmettre le couple aux roues sans coupure de puissance. Pendant que l'une des sous-boîtes est au travail, la seconde prépare le rapport suivant. Et lors du passage de rapport, en quelques millièmes de seconde, le premier embrayage s'ouvre tandis que le second prend le relais. Donc ce qui nous permet de... En fin de compte, pour schématiser, normalement, une boîte de vitesse est composée d'un arbre central avec une pignonnerie et sur un de ses côtés, l'ensemble des autres pignons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et marche arrière. Mais sur une boîte à double embrayage, il y a deux chaque côté de l'arbre principal, la pignonnerie, ce qui permet de sur une boîte de mettre tous les chiffres pairs et sur l'autre les chiffres impairs. On a sur le premier les rapports impairs 1, 3, 5 et sur le deuxième 2, 4, 6. Et lorsqu'on passe le double embrayage, à ce moment-là, le rapport vient à s'enclencher, par exemple la première, la pignonnerie s'enclenche directement sur le pignon de l'axe principal, et il y a un pré-engagement direct du deuxième rapport, c'est-à-dire du second arbre, qui vient se pré-engager. Ce qui fait qu'au moment où on passe le second rapport et qu'on débraye, là où auparavant on mettait quelques centièmes de seconde au mouvement de l'arbre et de venir se coller sur la pignonnerie, là on a directement l'accolement qui est fait dans un millième de seconde et on a une perte infinitésimale sur le temps de réponse de la boîte. En même temps, ça permet de maintenir, de gagner les avantages et surtout de ne pas perdre de couple, ou ce qu'on appelle les sans rupture de traction, donc des ruptures de charge, et on a un couple constant, sans à-coup pour la voiture, donc un passage linéaire et une assez grande fiabilité. Et c'est pour cela qu'on parle d'un double embrayage, parce que les doubles embrayages servent sur chacun des arbres latéraux de l'axe principal. Je ne sais si j'ai été clair. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires?
Non. Non, je pense que tu as été très clair. Bon.
Non, vous avez compris ou j'étais un petit peu là?
Non,
oui, on a compris. Il y avait un double système. La réponse qui fait genre, on n'a rien compris, on s'en fout.
J'adore. L'art de la confusion.
Faut expliquer que pendant que Steph Core a fait son petit truc, on s'est un peu vengé. Enfin voilà, on a un peu parlé à part par écrit, et donc du coup on n'a rien écouté. Et la manière de Gigi qui dit oui, alors en fait on a compris qu'il y a un double système, c'est dans nos têtes, ça, on se dit oula, t'engages pas parce que ça se trouve t'as rien compris.
Allez, on va arriver à la fin cette belle émission. Franchement, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas été là pendant l'enregistrement, mais c'était une belle. On rappelle qu'il y a un concours, le concours Top Position. Donc l'adresse, oui, c'est concours@savf1.fr.
Et la question.
Retrouve-la, parce que de tête, je pense pas. Où t'es très fort.
Non, bah, bien sûr, j'ai tout de tête, moi. Ah. Non, il s'agissait d'épeler.
Deutsch Vermogens Beratung.
Ah, merci, Gus, tu vois, t'as été plus rapide que moi.
Voilà.
Non, mais c'est moi qui ai écrit la question, donc je connais la question quand même.
Ah, c'était toi?
Oui.
Bah, oui.
Ah, oui, c'est moi.
C'est terrible cette question.
Ah, donc voilà, la question, il s'agit d'épeler correctement
Deutsch Vermogens Beratung.
Waouh, tu parles bien l'allemand.
Et donc, on vous rappelle, hein, vous nous posez une question sur la Hongrie et la beauté.
Oui, c'est vrai.
C'est tout, on arrive à la fin de l'émission.
Déjà.
Enfin...
Déjà.
J'adore, il y en a un qui dit déjà en pensant au montage, et l'autre qui dit enfin en pensant à l'enregistrement. C'est vrai. Alors pour vous, c'est déjà, parce qu'on a pas mal monté. Mais pour nous, c'est enfin.
On vous rappelle, hein, que si vous écoutez via iTunes, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous trouver sur Podcast France. On est toujours, voilà. C'est con, on perd des places parce que c'est fou, ça. Il y a deux semaines, il y a deux semaines, on était troisième, on était à trois places des leaders, c'était nickel. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous avez voté, et ça, c'est bien. Parce qu'on a vu qu'il y avait des votes en plus.
Oui, parce qu'après, il y a des gros podcasts quand même, donc,
ouais, mais on est un
normal qu'on soit, s'ils font comme nous. Non, mais des plus gros que nous, encore.
Parce que Dino, le SAV de la F1, c'est...
Le Ritz, oh merde, putain, j'ai...
Le Ritz des podcasts.
Le Ritz des podcasts.
Ah oui, mais tu m'as mis le doute avec le coup de la Rolls Royce, là. J'ai voyé une Rolls Royce dans ma tête, merde.
Le SAV de la F1, c'est la famille.
D'ailleurs, on vous rappelle, en parlant de famille, vous pouvez toujours porter candidat pour participer à l'émission après les Grands Prix. Le Grand Prix d'Allemagne, ça y est, c'est pris, c'est bouclé, on a trouvé quelqu'un. On vous découvrira la semaine prochaine. Le Grand Prix de Hongrie, le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de Corée du Sud et le Grand Prix de Japon sont pris, mais si vous voulez une place sur d'autres Grands Prix, n'hésitez pas à postuler. voilà, même mois d'octobre. Mais
2014.
Voilà, même si vous voulez vous réserver à l'avance, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail sur contact@savf1.fr. Voilà, on vous explique un peu la marche à suivre et puis après, on voit un peu avec vous comment s'organiser. On est assez soft.
Voilà.
Et on est tous aussi à savoir joignables sur Internet, si vous voulez discuter avec nous sur Twitter.
En même temps, pour les conneries qu'on dit sur Twitter, je suis pas sûr qu'il fallait vraiment se mentir. Voilà, sinon vous pouvez nous retrouver sur Twitter. On mettra, faut vraiment qu'on essaie de mettre ça sur savf1.fr pour que vous ayez
la liste,
ne serait-ce que la liste et puis accès à nos différents tweets.
Voilà.
Sans oublier, surtout le plus important, c'est Fan Formule 1.
Oui, parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
Fan.com.
Voilà. Allez, ciao à tous.
Allez, salut.
Salut à tous.